Coucou les movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture, du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique. Et aujourd'hui le mot de cosmique est très très bien choisi. J'accueille David de Systemic Movement. Pour une fois, je n'ai pas envie de vous présenter le sommaire de cette conversation tellement il est dense et puissant. On explore pas mal de concepts autour de la pratique du mouvement, de la connexion corps-cœur-esprit et de l'approche holistique de la santé, du potentiel humain, de l'exploration de notre être. Comme toujours avec le podcast, on explore énormément de concepts qui sont parfois très difficiles à saisir et aujourd'hui ne va pas faire exception à cette règle. Donc je vous invite à vous accrocher, à écouter et réécouter les propos de David. C'est fait avec beaucoup de bienveillance. J'ai adoré passer ce moment avec David, un moment presque intime, calme, posé, dans lequel on laisse simplement l'esprit divaguer et il nous partage à cœur ouvert sa vision des choses, sa vision peut-être d'une approche de la santé dans laquelle on va essayer de s'incarner, on va essayer de reconnecter avec cette vulnérabilité, avec ses émotions et avec toute la partie un peu énergétique. Donc oui, on va explorer des dimensions intangibles. Comme toujours, avec ces épisodes, il ne s'agit pas d'être dogmatique. On propose simplement des pistes de réflexion et je suis ravi de terminer cette année 2022 en proposant de tels épisodes. Je pense que ça va permettre de faire une sorte de wrap-up de tout ce qu'on partage dans ce podcast Movers. Et donc, c'est le parfait timing pour proposer ce type d'épisode. Je vous laisse découvrir David, sa philosophie, son approche, les différentes thématiques que l'on aborde autour de la solitude, autour du bien-être mental, autour du conditionnement sociétal parfois qui nous emprisonne dans des cases auxquelles on ne souhaite pas appartenir, autour peut-être de cette prison mentale que l'on se construit, autour de l'influence des énergies autour de nous, comment sentir une personne, comment créer du lien et comment surtout trouver son alignement, sa paix intérieure. Écoutez, réécoutez, savourez, bienvenue dans cette nouvelle aventure pour cette belle fin d'année. Cet épisode est sponsorisé par Movers Academy, l'académie des movers dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les formations en ligne au mouvement, à la mobilité articulaire pour vous aider à gagner en autonomie physique, à retirer les douleurs, les raideurs, les blessures, améliorer vos amplitudes de mouvement et de nouveau retrouver un corps sur lequel vous pouvez compter, capable de bouger librement, sans aucune restriction, que vous comprenez, que vous savez manipuler pour tous les gestes du quotidien, améliorer vos performances athlétiques et profiter de vos activités physiques préférées sans risque de blessure. Movers Academy, c'est la première école de mouvement et de mobilité en ligne. Et avec le coupon code Movers Podcast, vous bénéficiez de 25% de réduction sur toutes les formations. Et il y en a pas mal qui sortent ce mois-ci. N'hésitez pas à faire le plein et à de nouveau libérer le potentiel de votre corps. Ne mourrez pas sans découvrir ce que votre corps est réellement capable de faire. Donc rendez-vous dans l'Académie Movers. Cet épisode est également sponsorisé par leboeufderbe.fr, des producteurs locaux Pierre et Sandrine Inard qui font les choses dans les règles de l'art qui vous permettent d'accéder à de la viande de très haute qualité élevée à l'herbe biologique sur lequel il a le contrôle parfait depuis l'élevage jusqu'à l'abattage jusqu'à la découpe en vous proposant des colis à livrer directement chez vous. Donc c'est du producteur jusqu'à la table avec des producteurs qui sont conscients de l'écologie et qui ont un amour réel pour leurs animaux, pour l'air, pour la terre, pour la nature et une très grande conscience et un éveil spirituel. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierre et Sandrine et on s'est régalé à parler de conscience corporelle, à parler d'élévation spirituelle, à parler d'exploitation du potentiel humain et ils veulent ajouter leur pierre à l'édifice de la santé et permettre à tout le monde d'avoir un corps, un cœur et un esprit alignés et qu'ils puissent faire des choix conscients dans leurs achats pour nourrir leur corps en sachant exactement d'où viennent les produits, comment ils ont été conçus et c'est une occasion supplémentaire de soutenir les petits producteurs français, les petits producteurs locaux en montrant grâce à vos achats eh bien le choix que vous faites pour les futures générations de préserver un environnement naturel, la biodiversité et surtout de vous nourrir de produits hautement nutritionnels pour améliorer votre santé. Donc n'hésitez pas à regarder leboeufderbe.fr et ajouter le code de réduction Movers 2022, M-O-U-V-E-R-S 2022, pour avoir les frais de port offerts lors de votre commande de belles pièces de viande de chez Pierre et Sandrine Inard, leboeufderbe.fr. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec leboeufderbe.fr et j'espère que cette collaboration va durer sur le long terme et nous permettre encore une fois d'aider de plus en plus de personnes à gagner en autonomie sur toutes les dimensions. leboeufderbe.fr avec le bon de réduction Movers 2022 pour avoir les frais de port offerts. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Movers, épisode 96 avec David de Systemic Movement. C'est parti.
Ouais.
comment ça va?
Bah écoute, ça va. Ça se passe bien. Ouais.
Ça se passe bien. Tu me disais que t'étais pas un habitué, toi, des podcasts et des interviews et des choses comme ça.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus celui qui écoute plutôt que celui qui parle. Voilà. Donc j'écoute, bah, écoute, j'essaye dans mon coin des trucs et voilà. Et quand vraiment je suis sûr de mon coup, je ramène ma fraise, mais sinon.
une belle philosophie.
Voilà, ce qui est quand même assez rare, parce que on sait jamais tout, quoi. On sait jamais grand chose en réalité. Donc pour éviter d'être un imposteur, je préfère la fermer.
Voilà. Ça se tient. Après, comment tu fais justement pour jongler un peu ces entre ces deux idées, tu vois, l'idée d'être un chercheur dans son coin, tu vois, rassembler les connaissances, améliorer tes théories, tes principes, etc., et en même temps le deuxième rôle qui est l'enseignant, celui qui partage, celui qui aide, celui qui guide, celui qui éclaire. Comment toi t'arrives à concilier les deux? Est-ce que tu te dis il faut que je passe quand même des années tout seul dans mon coin à faire les choses? Quand est-ce que tu te sens prêt alors à enseigner? Quand est-ce que toi tu t'es senti prêt à enseigner? Bref, comment tu jongles entre ces deux idées? Parce que le concept là de l'imposteur, c'est aussi quelque chose que beaucoup de créateurs ont. Tu as ce fameux syndrome, tu te sens jamais suffisant, en fait, tu vois, tu te sens jamais prêt, tu te dis toujours que ah ben non, en fait, j'en sais pas assez, etc. Donc comment tu fais toi ce pas là vers être capable après de créer ton système d'enseigner?
En fait, c'est quelque chose de c'est tout un cheminement, je pense. C'est-à-dire que derrière ça, en dessous de ça, il y a la notion de respect de l'autre. Il y a la notion de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi.
Ouais.
Il y a vraiment plein de choses qui sont planquées là-dessous. Et je me dis qu'on peut se construire qu'à partir du moment où on s'expose.
Exactement.
Donc à un moment donné, faut se lâcher, jeter dans l'arène,
ouais.
Et puis voir ce qu'on peut susciter chez l'autre, inspirer, etc. Et en même temps, ce que les autres me renvoient comme information.
Ouais.
En fait, il y a une information à double sens. C'est pas quelqu'un qui sait, qui est au-dessus du lot et qui diffuse son savoir. C'est un espace d'échange en réalité. C'est de dire, attendez, moi les gars, j'ai perçu ça, je vous le file, bah, je sais pas, ça rentre comment dans votre système, comment ça traverse votre système. Et là, du coup, le retour, pour moi, il est intéressant, c'est de se dire, ah putain, mais moi, j'avais pas pensé que ça pouvait rentrer comme ça dans votre système à vous. Où j'avais mon angle de vue à moi, il est biaisé. Il est biaisé par mon passé, par mes traumas, par diverses immaturités de mon système, voilà. Et du coup, j'ai une lecture qui n'est que la mienne. Alors, c'est intéressant de se trouver confronté à du collectif.
Oui.
Moi, je suis assez à l'aise avec en one and one. Je suis assez bien là-dedans. Parce que, si tu veux, je perçois beaucoup d'informations. Je suis quelqu'un d'assez, à force d'être tout seul et, enfin, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, seul et voilà, je suis pas en train de me morfondre, hein, c'est mon système qui est comme ça, je suis bien comme ça.
Ouais.
Donc du coup, j'accède à de l'information assez subtile.
Ouais.
Et quand je suis avec une personne, je peux arriver à choper de l'information assez subtile. Je peux aussi ne pas y arriver en fonction de mon état. Donc c'est assez, tu vois, c'est changeant ça aussi. Mais alors ouais. quand il y a un gros groupe, s'il y a 20, 30, 40 personnes, là c'est compliqué parce que ça fait beaucoup beaucoup d'informations qui rentrent et c'est un peu le désordre à l'intérieur de moi. Et du coup, tu te rends compte à ce moment-là que ton système il capte des choses qui viennent confirmer ce que tu pensais déjà. Ça veut dire qu'il y a des gens là, tel regard, ça va m'interpeller, telle attitude va m'interpeller. Et il y a des gens, hier j'avais un groupe d'étudiants, je leur disais, bah écoute, lui, je me rappellerai de lui, toi, je ne me rappellerai pas de toi.
Dingue.
Tu vois, donc je me dis comme ça, je le pose comme ça. Je dis, ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça a à voir avec mon filtre. Mon filtre capte quelque chose, c'est lui qui résonne dans mon passé certainement. Et puis toi, c'est neutre, alors voilà. Du coup, Et tout ça, ça fait beaucoup d'infos, quoi. Et c'est compliqué. Et ça me renvoie immédiatement à l'idée de est-ce que ce que tu dis, ça vaut le coup d'être dit, dans la mesure où peut-être ça touche une personne, wow, ou deux.
Ça, c'est puissant, ouais. Ça, c'est un concept compliqué. Puissant. Il y a beaucoup de choses là que tu partages avec lesquelles je résonne particulièrement. J'aimerais te lancer sur le sujet, peut-être qu'on a en commun une expérience de vie commune qui est la solitude, passer beaucoup de temps seul. J'aimerais que tu me parles un peu de ça et que tu me dises quels ont été pour toi peut-être les bienfaits, les bénéfices, ou quelle est cette aventure au final de la solitude, comment tu la décrirais, parce que comme tu le sais, dans un monde où tu as des notifications constantes, comme tu disais, une perte d'énergie en permanence, tu vois, un système qui est justement plus capable de filtrer, qui est incapable de capter les informations, parce qu'en fait, on est soumis à un chaos permanent. Donc toi, quelle est la place en fait de cette solitude-là? Est-ce que tu l'as cherchée, ou bien ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose qui a trait à la personnalité? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des gens? Comment tu verrais cette thématique globale de la solitude qui, pour beaucoup, est une hantise?
Ouais, c'est ça. Ben je pense que tu choisis pas ça, en fait. Je pense pas que tu choisisses ça au départ. On est des êtres sociaux, donc du coup, on a besoin d'être avec les autres, etc.
Ouais.
Mais moi, j'avais un terrain, familial qui était avec des gens qui, avec beaucoup d'amour, etc. Mais des contraintes, des gens qui travaillaient à 4 heures du matin, vraiment, c'était difficile pour eux.
Ouais.
Et moi, je suis arrivé là, et je crois que je suis arrivé là, que j'étais pas trop prévu. Et donc, du coup, c'est un peu la panique, je crois. Ils ont dû me faire confiance très tôt. Donc à 6 ans, j'avais les clés de chez moi et j'allais à l'école tout seul et je pouvais à manger, etc., etc. Et je traînais beaucoup dans la rue tout seul. Voilà. Et là, du coup, il y avait beaucoup d'observations du monde.
Oui.
De l'herbe, des vers de terre, de tout ce que je pouvais explorer. À l'époque, il y avait des bennes, tu sais, il y avait des bennes à déchets qui étaient dans la rue. En fait, c'était pas des déchetteries, c'était dans la rue. Il y avait des endroits où il y avait des bennes. Et là, pour moi, c'était des trésors parce que du coup, j'allais là-dedans, je grimpais sur ce truc-là et je regardais par-dessus. Et devant, il y avait des trésors, quoi. Donc ça puait, mais c'était pas du déchet alimentaire, c'était des meubles, des trucs comme ça. Donc quand t'es un gamin dans la rue, je peux te dire que là. C'est la fête, tu sors plein de trucs et tu fabriques des trucs et puis en plus c'est un petit peu interdit et puis il y a un petit peu tout ça. Il y avait une usine aussi à côté de chez moi désaffectée et donc c'était interdit d'y aller. Alors évidemment, voilà, et je grimpe sur le mur, je revois de l'autre côté. Il y a des, je me rappelle de tout ça, tu vois, c'est très sensoriel. C'est vrai, là quand je t'en parle, je sens le mur dans ma main en fait. Je sens qu'arriver en haut, il y a des bouts de verre, tu sais, qui sont plantés comme ça pour pas qu'on. Et moi, je le sens et du coup, je trouve une stratégie pour passer. Et puis un jour, j'ai la capacité de sauter de l'autre côté et de me dire, je vais pouvoir ressortir et arriver de l'autre côté. Alors là, c'est Disneyland.
Mais oui.
Parce que alors là, il y a cette ambiance, tu vois. Il y a un truc, il y a une ambiance. Et c'est là que je te parle d'informations subtiles. C'est ça. C'est quand tu rentres dans cet endroit-là et qu'il y a le silence. Que c'est énorme, c'est des hangars énormes. Il y a des vieilles machines. Tu sens l'histoire, tu sens qu'il y a eu de la vie, qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont souffert, il y a eu des trucs. Et moi, je percevais ces choses-là tout en étant seul, tu vois. Et un mélange d'angoisse, de j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. De et si quelqu'un me trouve et tout ça en fait, ça construit l'écoute de l'information dans ton système.
Amen.
Et du coup. Tu n'as plus peur forcément de tout ça. Après, tu commences à être émerveillé en fait par tout ça, je pense. Donc voilà. Donc la solitude, elle m'est tombée dessus un peu comme ça. Je dirais pas solitude, je sais pas quel mot utiliser, mais voilà. Solitude, on dirait que c'est une maladie, que ça fait peur et tout. Mais moi, ça me faisait pas peur. En fait, c'était cool. D'ailleurs, ce qui était moins cool, c'est quand il y avait des gens. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'habitues avec ça, à ça, et puis j'avais l'impression d'être comme un petit animal un peu sauvage comme ça, qui fait sa petite expérience. Et donc du coup, quand tu te retrouves dans une contrainte avec des codes sociaux, etc., etc., où il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut, faut dire bonjour à la dame et tout. Moi, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas le sens de tout ça et pourquoi il fallait faire tout ce cinéma-là et tous ces trucs-là. Et du coup, progressivement, je me suis retrouvé un peu en décalage avec tout ce qui était codes sociaux et normes, normalité. Et il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est toujours là. Dès qu'il faut faire des choses administratives, par exemple, rentrer dans des cases et machins et des trucs, ça n'a pas de sens pour moi. Il y a un problème de sens.
Oui.
Tu vois, j'ai découvert, en rencontrant certaines personnes qui ont bossé là-dessus, que à partir du... Les gens qui ont cette sensibilité-là... Tout le monde a de la sensibilité. Hein, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est... Hein, les hyper machin, ça me fait un peu rigoler. C'est juste que j'ai eu un contexte qui fait que je le sens. Hein, c'est tout.
Mais ça s'est développé, ouais.
Sentir, c'est juste qu'il y a trop de bruit autour et ils le sentent pas. Mais en fait, tout le monde a tout ça. Et donc, je me suis perdu, ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti sur.
Tu disais que t'as rencontré
oui,
des gens.
J'ai rencontré
des
personnes qui parlaient de tout ça. Et donc, on a besoin de sens. On a besoin que les choses aient une signification. Le cerveau de ces gens-là est un peu construit comme ça. Voilà. Et quand on comprend le pourquoi du comment de tout ça, ça s'articule. Voilà, ça nous fait du bien. En fait, on est bien là-dedans. Mais voilà. Et en fait, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être dans du cartésien. Des trucs durs, fermés, carrés, reconnus par tout le monde, et, enfin par une,
oui.
Un certain angle de vue, mais voilà, juste une ambiance fait découler un sentiment, une émotion, un comportement, et tout ça, c'est comme dit François Roustan, il parle de perceptude au lieu de perception. Voilà, la perception, c'est carré, je peux comptabiliser, faire là. La perceptude, c'est je sens un climat, je sens un truc. Et ben ça peut donner du sens. On n'est pas obligé d'être dans un truc raide, tu vois. Ça peut donner du sens. Et en même temps, je trouve que je me dis, je suis pas que là-dedans. Comme j'aime bien le sens, mais j'aime bien aussi tout ce qui est scientifique, carré, etc., etc.
Ouais.
Donc je peux aller dans l'extrêmement carré, mais en même temps, ça a autant de sens pour moi d'aller faire des séances de gong ou de trucs comme ça, tu vois, où tu te dis, c'est n'importe quoi, c'est quoi les perchés? Mais non, il se passe quelque chose dans nos corps, on peut pas nier qu'il se passe quelque chose dans nos corps, c'est pas parce qu'on l'explique pas, on n'a pas une argumentation scientifique qui n'est qu'un angle de vue, et en plus un angle de vue qui change tout le temps.
Exactement.
Qui est pas du tout figé.
Ouais.
Donc pourquoi ça serait plus valide que ce que je sens au travers de mon corps, parce que ce que je sens au travers de mon corps, je peux te dire que je le sens.
Ouais.
Donc c'est pas la peine de me sortir des théories, c'est dedans, je le sais. Tu vois, ça me fait penser au médecin qui dit non, vous avez rien. Mais les gens, ils sentent qu'ils ont un truc, tu vois. T'as pas la réponse sur ton angle de vue, t'as rien à apporter, mais ça te dévalorise pas, c'est juste. C'est pas grave, on se détend, c'est bon. Tu vois.
Donc, comment faire alors la distinction entre comment dire, ce que je ressens réellement, tu vois, développer cette sensation d'acquisition d'informations et peut-être de perception, tu vois, améliorer juste le moment où t'as l'information qui est là, et toi, ton capteur, comment il ouvre la petite porte pour que l'information rentre, comment améliorer ça, sans pour autant faire la confusion entre capter une information et interpréter ou inférer dans le monde nos propres perceptions et idées et informations. Je te donne l'exemple, là, tu mentionnais le gong. Le gong, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver, ils vont tellement avoir déjà des idées préconçues qu'ils vont se dire « non, je ressens rien ». Mais est-ce que t'es pas en train de te bloquer les capteurs parce que toi, t'infères dans le monde une vision du monde, et donc tu te dis « ça n'a pas de sens ». Donc, boum, évidemment, quand t'es dedans, bah ça, tu ressens rien. Ou bien, à l'inverse aussi, le mec qui est justement trop, trop séduit par l'idée, comme tu disais, les hypersensibles, les machins, les gens qui veulent aussi se sentir un peu spécial, différent, et donc ils vont te dire, non, moi, j'en ressens plus que toi. Tu vois, c'est des nuances, comme tu parlais, j'adore ce mot-là de nuances. Comment arriver à faire cette distinction? Comment reprendre un peu, parce que moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on a tous ces capacités-là, à différents degrés, certainement. Il y a des environnements qui vont être plus propices au développement de certaines, on va dire, capacités sensorielles, kinesthésiques, etc., que d'autres, bien évidemment. Mais tu vois, comment reprendre un peu possession de ce côté-là, cet attribut que l'on a tous, qui est « je suis capable de capter une information, une atmosphère, une ambiance, une énergie, et sans tomber dans les deux extrêmes, tu vois. Soit je réfute tout, ou soit je prétends être un... Tu vois, ressentir des énergies là où il n'y en a pas, tu vois.
Ça me renvoie à l'idée de faire de la place. Quand tu fais de la place, tu peux entendre l'information qui arrive. Tu vois, s'il y a un petit son subtil dans la pièce et qu'il y a un marteau piqueur dehors, je vais pas avoir accès au truc subtil. Donc, si je fais de la place dans la neutralité, du coup, j'accède à cette information-là. Si au moment où je fais de la place, je perçois une tension, ça veut dire que là, il y a une information qui est à considérer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette tension si par exemple, je veux être quelqu'un d'extraordinaire? Je vais être un HPE. Tu vois le truc. Je vais être un HPE. J'ai eu un dossier l'année dernière, c'est pour ça que je te reparlerai après. Même. J'ai eu un dossier d'étudiante énorme. Bref. Comme je veux être ça, eh ben, je suis hyper ouvert à tout, je peux tout entendre, même des trucs qui n'existent pas, etc., etc. Mais en fait, si tu écoutes vraiment dans ton système, tu sens à ce moment-là qu'il y a une tension qui apparaît. Tu sens qu'il y a un truc ou une dissonance. Tu vois, il y a un truc qui est dissonant. Alors, ouais. Où tu fais celui qui n'a pas entendu, où tu l'écoutes et en toute honnêteté, tu te rends compte que ce que tu veux par-dessus tout, c'est être meilleur que les autres. Voilà. Et donc, tu n'as pas du tout quitté le schéma du performeur et du super-héros. Tu es toujours dedans, sauf que tu l'as balancé du côté émotionnel et sensoriel. D'accord ? Mais en fait, la tension, elle est toujours là. Tu la sens toujours. Et c'est cette honnêteté qu'il faut essayer de trouver. Donc ça demande du silence, ça demande de passer du temps avec soi, en tout cas de voilà quelle information m'interpelle au cours d'une journée, qu'est-ce qui rentre dans mon système et fait tit, et c'est toujours un peu les mêmes choses qui m'animent, c'est toujours les mêmes personnes qui m'énervent, c'est toujours les mêmes situations qui m'excitent, c'est toujours les mêmes voilà. Et une fois que j'ai l'honnêteté de passer du temps avec ça et que je fais du silence. C'est-à-dire que j'essaie de reconnaître quand il y a des croyances qui arrivent,
oui.
Des habitudes, des machins comme ça, qu'il n'y a plus de bruit, là on peut sentir. Et là, effectivement, on fait la différence, je trouve, entre ceux qui sentent rien, ceux qui sentent trop, machin. On sent tous, c'est juste un problème de bruit et d'honnêteté.
Ouais.
Voilà. Et donc, oui, je revenais juste sur le dossier de la gamine l'année dernière, là. Je fais un cours à l'université qui s'appelle Confiance en soi et au travers du corps. Mmh. Ouais, j'ai plus un truc comme ça. Enfin, bref, j'essaye de reconnecter le corps, le mouvement, l'émotion, les pensées et de voir comment tout ça s'articule. Et donc, je leur demande un dossier à la fin où ils mettent dedans le caractère administratif de l'université, dire c'est carré, c'est machin, on met des points là, ça vaut un point, ça vaut. Donc en gros, je leur dis vous rechantez le squelette que je vous balance,
ouais.
Et vous avez les points. Et à partir de là, dans le squelette, vous pouvez balancer qui vous êtes ou pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez de vous dedans ou vous en mettez pas. C'est l'occasion. Je vous ouvre la porte. C'est l'occasion d'utiliser le squelette et de dire ah bah moi dans cet espace-là quand on a fait ça ça m'a fait ça dans mon corps, ça m'a fait ça dans mon et puis dans ma tête, ça m'a fait penser et puis ou alors t'as pas envie de parler, tu parles pas. Donc du coup, t'as fait le job au niveau administratif. Donc voilà, moi je suis pas je vais pas noter des trucs qu'on pourrait dire c'est du perchage. D'accord ? Mais là t'as un espace pour toi, c'est l'occasion, je veux dire ça m'est jamais arrivé moi dans ma scolarité d'avoir un espace
pareil
où je peux en sécurité me déposer devant quelqu'un qui de toute façon je le reverrai jamais, mais c'est un humain et a priori il est capable d'entendre 2-3 trucs. Donc voilà. Et il y en a une, elle m'a fait un dossier une gamine super et tout, hein. Elle a bien participé à tout, elle était intéressée, elle était machin, hein. Et puis, elle m'a lâché un truc du début à la fin. En fait, c'était la démonstration de je suis HPE.
Ouais.
Donc, j'allais pas bien. Et puis, j'ai rencontré une thérapeute et elle m'a dit que j'étais HPE. Ça a changé ma vie. Et là, je me suis dit, putain, la vache. En fait, ce qu'on cherche, c'est de se coller une étiquette pour devenir quelqu'un, avoir une identité et être rassuré. Mais on fait un peu le déni. Ah, j'aime pas utiliser le mot on. Je vais dire je. Je fais le déni. Je fais le déni de ce qui se passe dans mon intériorité. Mmh. Je fais le déni de tous ces trucs bizarres qu'il y a. Ah, c'est bizarre, ça rentre pas dans le. Je sais pas mettre de mots dessus. J'ai pas. Oh, je suis bizarre. Et là, le risque, c'est exclusion du groupe et la mort. Donc, on a la peur de la mort qui est tout au bout du tunnel. Puis après, t'as un dégradé d'événements.
Exact.
Elle est tout au début et elle prend une étiquette qu'elle a gaulée quelque part et qui ressemble un peu au bordel. Je suis HPE, terminé. Fin d'histoire.
Ça mais, ressemble au bordel.
Tu vois, j'ai envie de dire, mais gros, HPE, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, il y a 10 ans, oui. Tous les mecs qui avaient ça, qu'est-ce qu'on en faisait? Alors, leur vie était nulle. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois le truc?
Ouais, mais ça me fait penser, pour étendre un peu cette idée de vouloir se coller des étiquettes et c'est avoir cette vouloir en fait exister, tu vois, cette volonté d'exister, comme tu disais, dans le groupe, qui essaye de masquer cette peur profonde qui est la mort. Je trouve, tu me diras ce que t'en penses, qu'on a aussi étendu la labellisation à plein d'autres domaines, autres que la sensibilité, etc. Par exemple, on le voit avec, tu vois, toutes les personnes qui sont aussi en crise d'identité, qui veulent trouver un nouveau groupe auquel appartenir et qui veulent de plus en plus segmenter et affiner le groupe, tu vois, que ça soit que ça soit avec le genre, que ça soit avec le statut social, que ça soit avec l'ethnie, que ça soit avec la pratique sportive, que ça soit avec les diplômes. Tu vois, et en fait, tu veux toujours avoir trouvé, tu vois, un nouvel espace dans lequel tu vas pouvoir exister. Et moi, ce qui me dérange, c'est que tu veux aussi exister en comparaison du groupe, en comparaison du reste. Tu vois, donc il y a, pour moi, c'est doublement perfide un peu parce que tu t'es dit, je veux avoir une identité forte. Et comme tu le disais, par souci aussi de compétition avec les autres. Et en plus, à l'intérieur même de ton groupe, tu veux encore, tu sais, te hiérarchiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une sorte de fuite en avant, de ces personnes-là qui jouent à ces jeux et qui peut-être se rendent pas compte de la perversité, en fait, de ce jeu-là, au lieu peut-être de s'orienter vers des valeurs telles que le bien commun, des fois s'effacer aussi pour faire profiter le groupe, contribuer humblement, tu vois, une humilité, une grâce, une discrétion, tu vois, qui était peut-être plus promue par les générations précédentes. Toi, comment tu vois un peu cette fuite en avant qu'on a, cette volonté d'exister au travers d'une labellisation de plus en plus précise, tu vois. Je suis de ce quartier-là, de ces études-là, de cette ethnie-là, de cet âge-là, etc. Et donc ça m'isole du groupe, mais j'existe. Et donc j'ai des revendications. Et donc je vais te les coller, tu vois, dans ta face. Et je veux avoir mon petit bout de terrain à moi, tu vois, et me battre pour ça. Qu'est-ce que toi, ça t'amène comme idée, que ça soit là dans sur ce terrain-là ou bien dans pareil avec l'hypersensibilité, la volonté de performer, se comparer, de faire des compétitions, etc.
Derrière tout ça, tu as toujours l'idée de ne pas être tout seul. Donc, en fait, c'est toujours la fuite du fait que je suis tout seul, j'ai une perception du monde qui est la mienne. C'est-à-dire là, dans la situation où on est, tous les deux, on pourrait croire qu'on vit le même truc là. On est en train de parler, on vit le même truc. En fait, on vit pas du tout la même chose. Sur une même séquence, en fait, il y a trois choses. Il y a ma vision du monde, ta vision du monde, là maintenant, et il y a la réalité telle qu'elle est à laquelle on n'accède pas. Donc, du coup, il y a trois trucs là. Et si on rajoute un autre bonhomme, ça change encore. Donc, on est toujours tout seul. Quand tu vois un objet, bah, en réalité, c'est de la lumière qui rentre dans ton œil et qui va faire des histoires dans l'œil, qui repart au cerveau. Le cerveau, il reconstitue l'image avec la perte qu'il peut y avoir, avec la sensibilité des capteurs qui est pas la même que la tienne. Enfin, il y a plein de trucs tellement différents. Ma maturité sensorielle, etc. Et tout ça fait que, là, on parle juste de l'œil, mais il y a tout le reste. Il y a tout ce qui est subtil, en plus. Donc, il y a les cinq sens, plus les autres sens, plus le subtil. Enfin, tout ça fait que j'ai une lecture du monde et je suis le seul à la voir. Du coup, je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon monde. Et c'est hyper angoissant d'être tout seul dans ton monde, en fait. Tu vois le délire, hein. Et en plus, je suis créateur du monde. C'est-à-dire, je suis Dieu. Je suis Dieu pour moi. Ce que je capte, je le crée moi-même. Donc, tu vois, l'angoisse de fou pour un humain. Donc, un humain, il va vite aller se recoller aux autres. Et donc, quand on peut avoir tous les mêmes codes, les mêmes trucs et les mêmes machins, c'est quand même rassurant. Mais, d'un point de vue développemental, c'est quand même mieux d'être au-dessus du lot. Faut mettre au-dessus qu'en dessous. Parce qu'en dessous, on se rapproche de la mort un peu. On va se faire rejeter, etc., etc. Donc, je veux être dans le groupe, mais je vais être sur le panier du haut. Donc, je vais toujours essayer de faire la démonstration que j'ai raison. D'accord? Donc, en fait, je passe ma vie à avoir raison, alors que la base sur laquelle on évolue, elle est différente les uns des autres. Donc, en fait, c'est un truc de malade. Je peux jamais avoir raison. Je peux faire des propositions. Je peux dire, moi, je vois le truc de là où je suis. Je le vois comme ça. Je le sens comme ça. Je le machine comme ça. Non, je peux pas imposer un truc alors que les autres vivent dans un autre monde. C'est un délire de fou, quoi. On a toujours besoin de ça. On veut pas être tout seul dans le vide.
Ouais.
On veut pas être tout seul dans le vide. Donc il faut du cadrage. Et y a pas, on peut pas avoir du cadre sans avoir du vide. Et on peut pas avoir du vide si on sait pas ce que c'est que le cadre.
Ouais.
Donc en fait, tu vois, il y a jamais un truc. Il faut que ce soit comme ça. Donc les gens qui sont comme ça, bah, ou comme je sais pas quoi, qui ont besoin d'être systématiquement, en fait, ils ont juste besoin d'être rassurés. Parce que le vide leur fait tellement peur qu'ils ont besoin de beaucoup de cadres.
Ouais.
Donc ils font de l'hypercadrage et puis ils se lancent dans la revendication de ceci, de cela, et moi, papa, et moi, ceci, et moi, et puis, du coup, ça permet, voilà, j'accroche une identité, je mets du sens, hein, parce qu'en réalité, l'autre face de la pièce, c'est, je peux pas être dans le vide avec rien, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien aller dans le vide, d'avoir des espaces de vide, etc., etc., dans la mesure où je peux y aller, hein. Il y a des gens qui peuvent y aller beaucoup plus que ça, hein. Je veux dire, honnêtement, quand je fais de la méditation, des choses comme ça, ça dure 5-10 minutes, c'est bien, hein. Donc, je me dis, ça dure 5-10 minutes. Et alors? C'est quoi? Il y a un chiffre? Il y a quelque chose? C'est quoi?
Ouais.
Pour être quelqu'un de bien, il faut faire quoi, alors? Tu vois? Donc, rien du tout. Il n'y a pas de ça du tout. Donc, moi, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Ça me plaît. J'adore. Il y a des jours, je le fais pas. Il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours, ça dure plus longtemps, etc., etc. Et ça me fait penser, ce truc-là, tu vois, à cette espèce d'élan qu'il y a eu autour des immersions en eau froide, là.
Mmh.
Que je fais, hein, que j'ai fait. J'ai emmené des groupes dans la rivière au mois de novembre, des gens lambda et tout, pour vivre l'expérience ensemble, etc. J'ai fait. Mais tu vois, à l'intérieur d'un groupe, qu'il y a des gens qui vivent le truc-là en déballant le chrono, par exemple.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive là, et puis, boum, combien je fais aujourd'hui? Alors, donc, demain, je dois faire plus. Donc, après-demain, ce sera meilleur. Donc, voilà, donc, je vais grimper, etc., etc. Et là, t'es complètement sur un axe qui est l'axe de la volonté. Donc, l'axe de la volonté, ça peut servir, hein, ça sert à plein de choses, à évoluer, mais avant la volonté, il y a un autre truc, c'est l'adaptation. Et on nous vend souvent un petit peu la loi de l'hormèse, là, comme cette histoire de s'exposer à un stimulus raisonnable pour pouvoir rebondir et être un peu plus fort, etc., etc. Je trouve qu'on oublie à cet endroit-là la notion de vulnérabilité.
Mmh.
Tu vois, donc quand tu déballes le chrono, bah oui, tu vas t'adapter, oui, tu vas être meilleur, oui, tu machin, mais à aucun moment, tu as admis que tu étais vulnérable. Ah, tu es rentré en combat. Et en fait, l'adaptation, elle repose sur l'acceptation de la vulnérabilité. Si tu n'acceptes pas ce truc-là, tu passes systématiquement ta vie dans la volonté et dans le combat pour toujours être au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et ça, ça crée de la tension dans le système. D'accord ? Tu es toujours en tension en réalité. Tu es toujours prêt à... Voilà, tu as une énergie à l'intérieur qui est toujours prête à péter. Tu as toujours un truc qui est prêt à péter. Tu n'as pas de moment de relâchement. Et avant qu'on contrôle tout, qu'on contrôle, comme on contrôle là, avant on était dans, on acceptait notre humanité. C'est-à-dire avant de stocker les vaches dans un parc et le blé dans un autre parc, en fait on était soumis à quelque chose de très chaotique. Le monde est chaotique. On était obligé de l'admettre parce qu'on était quand même la plus frêle créature du monde. Et donc, quand t'admets ta vulnérabilité, alors il peut arriver un truc qui s'appelle l'adaptation. Et l'adaptation, elle a permis d'avoir tout ce qui est la phylogénèse, par exemple, le développement des espèces repose sur l'adaptation et non pas sur de la volonté. L'ontogénèse, c'est-à-dire le développement du bébé, repose sur de l'adaptation et non pas sur de la volonté. L'épigénétique repose sur l'exposition à un environnement qui n'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est une adaptation. Et sur ça, alors si tu veux, avec ton petit ego émergent, poser des balises dans l'espace et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, bah moi je vais aller vers là, donc avec ma volonté j'y vais, mais ça repose sur un truc universel qui est bien plus dans les racines, qui est la reconnaissance de notre vulnérabilité pour laisser émerger l'adaptation qui est le mouvement de vie. C'est un mouvement de vie initial dans lequel on est pris. Bam, bam. Et si tu fais du déni de ça, putain, t'es en lutte contre toi sans arrêt, pas à coup de volonté, tu vois. Voilà. Moi, j'étais longtemps introverti et vraiment, j'ai eu des phases où je pouvais pas passer à la caisse avec un paquet de pâtes, tu vois, c'était pas possible. Passer à la caisse, il y avait la dame qui me regardait, il y avait les gens derrière, si ma carte bleue ne marchait pas. Hein. Donc, il fallait que j'y aille à la volonté. Donc, c'était... Et là, tu te retrouves avec tous les thérapies cognitives et comportementales, par exemple, qui sont... Ça peut être intéressant, c'est bien. Hein. C'est technique, ça repose sur de la volonté, ça repose sur de la stratégie, de l'organisation. On n'est pas sûr qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe au fond de moi, comment ça vibre, qu'est-ce qui se passe. Quand est-ce que je vais m'arrêter et reconnaître ce qui se passe et ma vulnérabilité? Oui, je ne passe pas à la caisse parce que je suis sensible. Ce milieu, cet endroit-là me crée un truc qui me submerge. Et si je ne passe pas un moment à reconnaître ça, je vais être dans la tension sans arrêt, sans arrêt. Et nos jeunes aujourd'hui, pour travailler avec beaucoup de jeunes là, des 20 ans et plus de 20 ans là, sont tous défoncés, déglingués par le fait qu'ils ne reconnaissent pas qui ils sont. Ils ont oublié qui ils sont et l'énergie qu'ils ont et leur singularité et la puissance de leur singularité et de ce qu'ils pourraient déposer dans le monde, tout ça pour aller justement, comme on disait tout à l'heure, correspondre à ces groupes, ces machins, et du coup ils disparaissent, alors que ce qu'ils auront à proposer au fond, c'est tellement plus riche et incroyable que cette petite merde qu'on nous vend, parce que derrière, évidemment, il y a souvent de la vente, puisqu'on serait insuffisant. Hein. Rappelons-le quand même, ce qu'on nous vend, c'est vous êtes insuffisant, les amis, vous ne vivez pas comme il faut, vous pourriez vivre mieux, mais heureusement, on va vous vendre ça. On va vous offrir ça et grâce à ça, vous allez devenir machin. Ce qui va te permettre encore plus de t'éloigner, de quitter. Ah, quand tu mets des espaces de silence et que t'offres aux gens, aux jeunes et même aux gens, à tout le monde, la possibilité de ce qu'il y a à l'intérieur, on est tellement éloigné de ça que ça fait peur. Parce que depuis le début, on cherche à planquer notre monstruosité. Voilà. Amen. Voilà. Donc on est des monstres. Pour nous-mêmes, on est insuffisant. On nous a expliqué ça. Hein. On a expliqué que il faut dire bonjour à la dame. Si tu dis pas bonjour à la dame, bah c'est que t'es pas normal. Si tu pleures à ce moment-là, c'est pas normal. Si t'as peur de monter dans le bus parce qu'il y a plein de monde, t'es pas normal. Bah alors attendez les gars, putain, je suis un monstre. Et s'il faut faire quoi? Il faut faire ça, il faut faire. Ah d'accord, bah, je vais faire ça. Donc du coup, je vais passer ma vie à planquer mon monstre, alors qu'il y a un truc qui vibre dedans. Quand tu le déballes, quand tu le poses, tout le monde ferme sa bouche et tout le monde fait oh, non pas parce que t'es formidable, mais juste parce que ça vibre dans leur humanité. C'est-à-dire ton humanité vibre dans leur humanité. Et on se retrouve entre nous en disant, putain les gars, mais en fait, on est tous vulnérables. On chie tous dans notre froc, en fait. Ça va. Alors du coup, on fait quoi ensemble? On continue à chier dans notre froc ou on joue, on s'émerveille, on danse, et puis on verra bien. Tu vois, je suis un peu là-dedans.
Amen, j'adore, là, c'est très, très puissant, cette idée de la vulnérabilité, ça résonne parfaitement en moi, qui est ce background, tu vois, de compétiteur, d'ultra compétiteur, qui, in fine, en fait, tu passes ton temps à masquer ça, tu vois, t'es purement dans la volonté d'en vouloir dominer ton corps, ton esprit, etc.
Et tu laisses pas la place. Je suis content que tu dises ça, parce que, je voulais pas te rentrer dedans. Non, ce que je veux dire, c'est que ton énergie dégage ça.
Ah oui. Alors,
ça veut dire, même si intellectuellement, tu as compris des choses, même si tu progresses, ton énergie, ça veut dire ta matière est encore imprégnée de ça.
Ah oui.
Voilà. Là, c'est plus facile de changer à... Enfin, c'est plus rapide de changer de l'énergie que de changer de la matière. Donc, tu as tellement été animé par ça que dans ton attitude, ton comportement, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu parles, etc., etc., les vocabulaires que tu utilises, tout ça, ça, c'est encore teinté de se battre, d'être le plus fort. Mais en dessous de ça, si on prend l'autre face de la pièce que tu es en train de découvrir, que tu as déjà découvert en partie, c'est ta sensibilité que tu as toujours mis de côté. Tu l'as mis longtemps de côté, d'accord? Et puis, à un moment donné, tu as commencé à accepter de la voir au lieu de te mettre derrière ton guerrier qui tape comme un maboule dans les trucs, là. tu as accepté ce truc-là. On se rend compte aujourd'hui qu'on peut être les deux.
Ouais.
Et on s'est beaucoup planté, je pense, hein, dans nos, à être ou blanc ou noir. Voilà, je suis dans le camp des blancs ou des noirs, voilà, et donc c'est chez moi et bam bam terminé. Et je vais surtout pas être de l'autre côté.
Exact. Alors,
toi, le combattant qui est sensible, mais la honte quoi. Mmh. La honte. Où va-t-on?
Mais c'est exactement ça. Alors, c'est un chemin. Tu vois, moi je le répète et tu vois moi créer le podcast, ça a été justement une excuse pour commencer, tu vois, à oser partager justement toutes ces choses-là que j'ai toujours cachées, que j'ai toujours même cachées à mes proches, tu vois. Moi, je me rappelle, mes premiers combats, je les montrais pas, tu vois. J'en parlais pas devant ce groupe de personnes. Bah, je disais que j'étais ça. Devant cet autre groupe de personnes, je disais que j'étais ça. Et donc, il y avait des masques et des masques et des masques, tu vois. Et c'est peut-être dans les 4-5 dernières années que tout ce cheminement, il a commencé à se faire. Et je suis ravi que toi aussi, tu peux, avec ta sensibilité, tu peux l'observer. C'est, j'en suis loin, tu vois, d'être en paix, en fait, tu vois, avec moi-même. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que des fois, ils vont t'observer, ils vont te dire, tu vois, moi, c'est ça que je veux. C'est genre, ce que Slimy l'a fait, c'est regarde les expériences, etc. Et ils voient pas, en fait, l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire que tu te dis, OK, le mec, il a accumulé des labels, il a accumulé des statuts, des choses comme ça, mais tu vois pas tout ce que toi, ça t'enlève. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je rentre une fois par an, à Paris voir ma maman, elle me le dit en une phrase. Elle me dit, tu vois, quand t'étais petite, t'étais pas comme ça, tu vois. Quand t'étais petite, tu faisais pas ça. Quand t'étais petite, tu dessinais. Quand t'étais petite, tu faisais ça. Quand t'étais petite, t'étais exactement toi. Et moi, je sais que là, ce que tu me montres, c'est pas encore toi. Après, comme tu le dis, on voit qu'il y a quand même du travail, tu vois, il y a des lectures, il y a une intellectualisation de toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas encore un lâcher-prise, il n'y a pas encore une paix intérieure. Et moi, je suis très, comment dire, je suis très honnête avec ça. Et c'est pour ça que je le répète à chaque fois aux gens. Je dis, attends, hey. Et c'est pour ça que tu vois, dans le podcast, je présente aussi des gens qui ont des backgrounds comme ceux-là, tu vois, qui ont fait d'autres phases, qui peut-être dans l'émotionnel, ils ont un peu plus exploré, dans le spirituel et dans le physique aussi. Là, je mentionne souvent un de mes très, très bons amis qui a fait, tu vois, 12 ans de carrière de sport de combat en Thaïlande. Et quand il me raconte son dernier combat et qu'il me dit, tu vois, là, c'était le seul moment de ma vie où j'ai enfin pris du plaisir. Ça m'a pris 12 ans. J'ai enfin pu être simplement moi. Et une fois que j'ai atteint ça, tu vois, je voulais plus combattre. J'ai arrêté. Immédiatement. Je me dis, voilà, c'est le dernier. Et en fait, c'est le seul que tu te souviens. Je sais pas si t'imagines, 12 ans pour reconnaître cette vulnérabilité, pour reconnaître cette sensibilité, pour reconnaître de plus en plus que, ah, tu vois, quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Et c'est ça que moi, j'aspire à retrouver de plus en plus, tu vois, ne serait-ce que par des projets comme celui-là, par inviter des gens. Et comme tu le disais, par me nourrir, tu vois, de ces autres perceptions, de ces autres visions du monde. Et je pense que c'est bénéfique. Tu vois, c'est à travers du dialogue, au travers de l'échange qu'on va pouvoir peut-être, en tout cas certains comme moi, oser, tu vois, se déverser un peu plus dans le monde et accueillir ces autres visions du monde pour compléter la tienne, remanier, remodeler qui tu es. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est difficile pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas accès encore à cette phase de la vie dans laquelle ces choses-là, elles font sens. Comment toi, tu dirais, comment on pourrait aborder petit à petit cette redécouverte de soi? Au lieu de passer son temps à essayer d'accumuler les nouveaux outils, comme tu disais, le froid, le jeûne, la méditation, etc. Les gens, ils cherchent que des outils de plus en plus. Mais au final, tu vas accumuler des pièces de l'armure. Mais nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est enlever, en fait, l'armure. Est-ce que toi, tu as un moyen de serait-ce que par parler avec les élèves que tu as eus, des, peut-être pas un outil, tu vois, mais des choses, en fait, des expériences qui permettent, tu vois, une première étape, tu vois, un premier pas vers soi.
Moi, j'aime bien faire des démonstrations dans l'expérience. Ouais. En fait, on est là pour vivre des expériences. On a un corps, du début à la fin, on nous a filé un corps, à la fin, on va nous l'enlever. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de percevoir avec ce truc-là. Donc, on est resté fixé sur le cerveau. Là, il y a un gros truc sur le cerveau, la neuro, la machin, je te découpe dans tous les sens, et je te fais les yeux, et je te fais les mains, et je te fais... l'équilibre, machin, ok. Donc, j'ai fait hein, tous ces trucs-là, voilà, je me suis intéressé à ça, j'ai fait toutes ces formations, ces machins et tout. Mais je me dis, c'est quand même du découpage. Ça reste du découpage, et nous, ce qu'on vit, c'est pas du découpage. On vit des expériences avec notre système corps, tout entier. Donc on reçoit de l'information par le sensoriel, par l'émotionnel, par les pensées, Et puis on a avec ce corps des attitudes, des comportements, des mouvements. Tout ça, si on regarde, ça peut être, comment dire, on se rend compte qu'on n'a pas la main là-dessus. Notre comportement, on n'a pas vraiment la main dessus en fait. Si on est honnête sur notre comportement, notre attitude, on n'a pas vraiment la main dessus. Par exemple, quand t'es énervé, tu t'agites, tu bouges dans tous les sens, tu machin. Est-ce que tu décides de t'agiter dans tous les sens et de gesticuler et de faire machin? Ben, tu décides pas, en fait. T'as pas la main. En fait, le truc, il est en train de se faire sans toi. D'accord? Pour rééquilibrer l'énergie. Quand t'as une émotion qui monte, en fait, ben, tu la maîtrises pas. Si maintenant je te dis, allez, sois triste. Vas-y. Mais tu peux pas, en fait. Tu vois? Les sensations, c'est pareil, ça te parvient, tout ça. Ça rentre dans ton truc, là, j'ai le cul assis, je sens que, ah bah, parce que je fais attention, je sens que, ah bah tiens, j'ai un appui sous le cul, sous les pieds et tout. Mais ça rentre dans mon truc, j'ai pas la main de tout ça. Ouais. Donc tout ça, c'est juste pour dire, on a très peu la main sur le système. Et notre cerveau ne fait qu'aller chercher des morceaux du passé, les avaler, pour aller produire du futur sur ce qui s'est passé hier, tu vois. Et donc du coup on est comme une marionnette. On a très peu la main. Par contre, ce qu'on peut, c'est avec la conscience se rendre compte de ça, c'est-à-dire de se placer dans de la présence, dans un état de présence. Et dans l'état de présence, tu vois en fait que tu pars en couille, tu vois. L'année dernière, je sors de l'université. Alors ça m'a marqué parce que j'étais en plein, je donnais des cours à des jeunes sur tous ces trucs-là, puis je suis toujours en train de fumer là-dedans et tout, trouver des exemples dans la vie pour que ce soit concret. Donc, encore une fois, voilà, l'outil, c'est que ce soit concret. Donner aux gens, leur faire vivre, leur dire ce que je vis. Voilà. Et donc là, je leur raconte justement ce truc-là. Je sors de l'université. Il y a une barrière. Donc, ça roule que dans un sens. Il y a un mec qui arrive en face, il se garde devant la barrière, il descend de sa bagnole, il se barre. Donc moi, je devais sortir, tu vois. Je me dis, mais il sort avec ce qu'il fait, lui. Et il arrive vers moi. En plus, il passe à côté de ma voiture comme si rien n'était. Et moi, j'étais là et il allait, je sais pas quoi faire. Donc, j'ouvre la fenêtre et je lui dis, il faudrait juste, si tu peux, te garer un peu sous le côté pour que je puisse sortir. Et le mec, ouais, on parle pas comme ça, machin, vas-y, tu me parles et tout, comment ça? Tu sais, je sortais d'un cours de boxe française, donc j'étais un peu énervé déjà.
Erreur grave. Et,
tu vois, donc là, t'es chaud, tu vois, t'es déjà chaud et tout. L'autre, il est là, il te fait un truc invraisemblable. Tu te dis, putain, attends, c'est bon. Et là, j'ai senti monter la tension.
Ouais.
Tu vois? Et c'est à partir de là où c'est intéressant, ce qu'on est en train de dire, c'est que entre le stimulus et la réaction, il y a un petit espace là où tu peux mettre de la conscience. Et à cet endroit-là, tu peux mettre de la décision. Tu vois le truc, le délire? Et plus ça va vite, et moins tu peux mettre de la décision. Donc, il y a des trucs, par exemple, si je me pique le doigt, je vais avoir un truc, je vais reculer comme ça. Je peux pas mettre de décision sur mon doigt qui recule. Le système vivant a pris la main parce que je suis en danger de mort. Donc, il dégage tout ce qui est de l'ordre de la volonté de mon petit cerveau qui réfléchit, qui serait malin. Non, non, il était trop con, tu vas pas aller assez vite. On va prendre la main, on te recule le truc. Donc, plus c'est dangereux, plus ça va vite. Donc, ce mec qui vient là, il est dangereux, mais il est moins dangereux que si je me pique le doigt. Alors, du coup, j'ai un peu plus d'espace. Et dans cet espace-là, j'ai eu le temps de juste respirer un coup, de juste faire. Et en fait, j'ai pu respirer même plusieurs fois. Donc, en fait, j'ai coupé la communication avec ce type-là. Je me suis mis en respi. Le mec, il me regardait. Je faisais un truc qui avait rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'était sidérant pour moi. Et ce que j'étais en train de faire, c'était sidérant pour lui. Mmh. Je suis pas sorti de la bagnole en lui sautant dessus. Je lui ai pas dit, excusez-moi, monsieur. Je suis resté dans le truc et j'ai respiré. Et en respirant, j'ai pu prendre conscience qu'il y avait une caméra, que si je descendais, que je le défonçais, ça me faisait pas grandir. Tu vois, parce que il est dans son monde, il est dans sa réalité, et ce qu'il est en train de faire, c'est pas tourner vers moi, mais c'est sa colère qui est en train de se déverser sur le monde. Donc ça me fait pas grandir. Donc j'ai pas d'intérêt. Deuxième solution, je sors, je me fais casser la gueule. Ça peut arriver, hein. J'ai des enfants, tout ça, je suis pas gagnant. Donc, que je prenne A ou B, je suis pas gagnant. Je me suis mis au milieu, j'ai mis cet espace de machin, et ben, l'autre, il est, comme j'étais pas dans son énergie, il est remonté dans sa bagnole, et il est parti. Tu vois. Et là, j'ai eu la démonstration que si tu pars pas dans l'énergie, de l'autre, de ce qui essaie de rentrer dans ton système, mais que tu restes avec ton ancrage, en fait, et ben, le monde change. Tu vois? C'est fou de se dire, en fait, t'as la puissance de changer le monde juste par ta présence, ta conscience, et donc, à un moment donné, tes choix qui deviennent des mouvements. Et là, on retrouve la notion de mouvement. Donc, on passe d'un mouvement réflexe qui peut être inadapté à un mouvement conscient qui devient tellement changeant pour le monde. Donc on est dans de l'archaïsme, de la sauvagerie, etc. qui était nécessaire il y a des millions d'années pour assurer notre survie, mais on a évolué et aujourd'hui on arrive à plus de conscience. Et ben avec cette conscience là, aujourd'hui, je peux reprendre la main sur l'archaïsme, etc. Et donc du coup, moi, j'essaie de faire vivre aux étudiants des choses comme ça. Je les mets dans des trucs où leur cerveau, il pam, tu vois. On arrive en début de cours. Ok, on est dans un dojo. Mettez-vous debout. Ok, bon, on marche, machin. On s'arrête. Là, je dis juste, on s'arrête. Donc, ils s'arrêtent. C'est des écoles d'ingénieurs, donc ils écoutent bien. On s'arrête. Les mecs s'arrêtent. Et là, on bouge plus et il y a du silence. On est 25. Personne ne sait ce que je vais dire, ce qui va se passer. Et là, il y a un truc qui monte, tu vois. Et si c'est pas assez, je viens et je me mets à côté d'un étudiant, mais genre à 2 centimètres de son nez. Tu vois?
L'angoisse du gars.
Tu vois? Je reste comme ça à côté. Je le regarde pas, tu vois, mais je reste juste à côté de lui, en fait. Et là, tu crées une sidération dans le cerveau de tout le monde. Tu vois? Tout le monde est, tu vois, tout le monde est, et là, tu crées un choc. Tu vois? Et donc, tu déstructures le système qui s'attend à le prof, il prend la main, ok, on marche, on respire, on fait ça, on fait des mouvements, ok, tout est bon. Là, tout d'un coup, tu crées un truc bon, qui n'a rien à voir. Et j'essaie de leur demander, mais qu'est-ce que ça vous fait dans votre système? Un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des pensées, mais avant la pensée, il y avait quoi? Il y avait, tu vois, et là, tu retombes sur, ah, il y avait une sensation bizarre, hein, on était, ah, et puis je dis, bah, j'imagine qu'au final, je suis bizarre. Je suis quelqu'un de bizarre. Je suis un perché ou je suis un machin. Puis voilà. Donc là, au final, on arrive sur une étiquette. Mais avant l'étiquette, il y a eu de la pensée, il y a eu de l'émotion et vous avez eu des sensations. Donc en fait, vous avez choisi de mettre une étiquette parce que ça vous rassure.
Ouais.
Tu vois le truc? Mais on pourrait mettre autre chose. On pourrait dire, tiens, l'expérience est intéressante. Tiens, j'ai jamais, tu vois. Et du coup, ouvrir. Et c'est comme ça que j'essaye de déstructurer. Alors du coup, je passe pour un zinzin, hein, je te raconte
toujours.
Pas. Voilà, un gros malade. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai passé tellement de temps à vouloir m'effacer ou à vouloir être comme il faut, ouais, que tout d'un coup, comme je suis bien dans mon système, je suis capable d'absorber les étiquettes et les trucs qu'on peut me balancer à la tronche. Je suis capable de les prendre sans justement sans réagir, sans machin, parce que je, ouais, comprends la position des gens. Je me dis, mais c'est normal qu'ils pensent ça. C'est normal, c'est des jeunes, ils ont 20 ans. Et puis voilà, j'étais comme ça. Et puis, OK. Tu vois, donc du coup, tu es capable d'entendre ce que fait un autre qui pourrait m'énerver. Je pourrais leur dire, mais non, mais je suis pas du tout perché, mais vous voulez voir mes diplômes. Mais bah,
oui, ça.
Tu vois, je pourrais, mais non, mais je dis, mais c'est normal, les gars. C'est bon, mais venez, on essaye autre chose pour voir. Venez, pour voir ce que ça fait. Venez, on est venu pour faire des expériences de vie. Venez, on fait des trucs chelous. Tu vois, j'avais un prof de PS, un collègue, il me disait, je m'en rappelle, tu vois, c'est rigolo parce qu'on se rappelle de choses qui sont dans notre sillage, tu vois. Mmh. Et je me rappelle d'un prof de PS, j'étais dans le Nord, j'avais été balancé dans le Nord au début, j'étais enseignant en sport, en lycée professionnel. Donc j'avais l'âge des mecs que j'avais en cours. Hein. Et puis on avait une salle de gym, et puis elle était super la salle. Et on devait faire les protocoles, les programmes de PS et tout. Donc, on faisait notre métier bien comme il faut. Puis, il disait, tu sais, moi, ce que je rêve, c'est d'ouvrir la salle. Et hop là, bamboula, on grimpe partout, on grimpe sur les murs, on roule, on saute, on s'éclate là-dedans et tout. Toi, c'était, il voulait, voilà, péter le cadre et puis quand même faire de la motricité, mais spontané, dans le jeu, dans on est ensemble, venez, on s'éclate, on arrête d'essayer de reproduire la figure sur la feuille, on n'en a rien à foutre. On s'éclate et on lâche les chevaux, etc., etc. Et ça m'avait, tu vois, ça. Et puis, c'était un grand mec, un grand gaillard hyper sportif, fort et intelligent et tout. Mais il avait ce côté gamin qui était encore là. Et son énergie, il y avait encore ça dans son système, tu vois. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Quand t'as encore ça, eh ben, tu peux à la fois être sérieux, machin, et faire un petit peu le mais tu t'es pas noyé là-dedans, t'es pas noyé dans ce personnage que t'es obligé de faire, voilà. Tu restes le gamin qui fait le con et qui machin, etc., etc. Donc on est les deux faces de la pièce, on n'est pas qu'une seule face.
Est-ce que tu dirais alors que non c'est parfait. Est-ce que tu dirais alors que peut-être une orientation plus saine, si on peut l'appeler comme ça, ce serait celle de retourner à cette enfance, à ce côté juvénile, au jeu, etc. Tu sais très bien que c'est quelque chose qu'on promeut beaucoup, même là dans cette un peu l'industrie du mouvement, etc. Mais j'ai l'impression aussi que, bah, comme tout ce qu'on essaye de faire, des fois ça peut être mal interprété et c'est aussi devenu tendance, machin. Tu vois, le mec qui dit ça maintenant, il est cool. Donc en fait, il reste dans cette fuite en avant d'acquisition d'un nouveau statut. Ah ouais, mais non, moi aussi je promeut le jeu, donc je suis comme ça. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que c'est une réelle orientation qui a été juste galvaudée? Et qu'au final, oui, c'est vrai que ça a du sens d'être plus comme l'enfant, ou bien on en fait encore trop des caisses et on s'éloigne de ce côté, retrouver son unicité et être réellement soi.
Comme d'habitude, hein, tu l'as dit, hein, c'est quand il y a un truc qui arrive, quand il y a un courant qui arrive, ben, y a toujours ceux qui veulent en faire plus. Et on retrouve sur des démonstrations de force.
Ouais.
Voilà. On retourne sur qui est-ce qui joue le mieux. Donc c'est toujours du déni de ce qu'on est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un courant émergent. C'est-à-dire que ce truc qui apparaît, il apparaît dans le groupe parce qu'on en a besoin. Donc c'est pas un mec qui a sorti ça et puis on s'est greffé dessus parce que c'était cool. Ça a émergé à plusieurs endroits en même temps. Tu vois, c'est comme le truc des singes là, je sais que c'était là, tu vois. Il y a un singe qui apprend un truc sur une île tu vois le truc, les autres singes à l'autre bout, ben ils se sont jamais vus, mais en fait ils apprennent en même temps le même truc, c'est émergent, le même truc qui sort au même. Donc en fait on en a besoin. Donc je me dis c'est cool que ce soit là. Après la course à ça, bon, est-ce qu'on est dans la perf, encore une fois, est-ce qu'on doit produire quelque chose, est-ce qu'on doit convaincre quelqu'un pour c'est ça en fait que je me demande. Ou une fois tu avais posé la question à quelqu'un, tu avais dit est-ce que tu danses tout seul chez toi? Tu te rappelles? Je sais plus à qui t'as dit ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça, on était dedans, tu vois. Est-ce que t'as besoin qu'il y ait le public et tout pour danser, ou est-ce que tout seul chez toi, ça danse? Donc, est-ce que tout seul chez toi, ça joue? Et c'est ça, en fait, le truc. Pas ça joue pour prévoir de faire une démonstration, ouais. Mais juste, tiens, il y a une boulette et je joue pendant 10 minutes avec une boulette sur la table. Tu vois, puis voilà. C'est...
J'adore.
Ouais, mais c'est ça. Hein.
Ouais, j'aime bien cette idée de ça joue, ça danse, ça fait. Comme s'il y a quelque chose, en fait, qui est là, de toute façon, indépendant de nous, et ça nous traverse.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Bergson, il parle de l'élan de vie. Ça, c'est super intéressant. C'est de se dire, en fait, depuis le début, tout n'est que mouvement. Depuis le début. Donc, depuis que les deux trucs se sont rencontrés, ça a formé, ça s'est développé, les cellules, tout ça, ça, en fait, ça danse sur un rythme qui est le rythme de la vie, et ça gonfle. Et en fait, on se trouve dans l'adaptation, exactement, mais on est au cœur de l'adaptation. Ça danse, ça nous dépasse tellement qu'on n'existe même pas encore. On n'est même pas là, que c'est sans nous, ça commence à, et seulement à un moment donné, on va avoir la lumière qui s'allume et se dire, ah bah tiens, c'est moi. Mais avant, il s'est passé plein de trucs. Et le truc là, il disparaît pas quand le moi il arrive. Il continue, en fait, le truc à danser. C'est pour ça que je dis, on n'a pas accès à nos sensations, on n'a pas accès à, c'est pareil, c'est des trucs qui continuent à danser avec les énergies, avec l'environnement, avec ce qui se passe. Ça danse, tout ça. Et en étant dans le super contrôle, eh bien, on oublie la danse, et le super contrôle apparaît à partir du moment où il commence à y avoir la notion de peur. Avant, il n'y a pas la peur, donc ça danse tout seul et ça se passe très bien comme ça doit se passer. Et à un moment donné, l'élan de vie va être arrêté. Fou. Comme ça, il va taper un mur. Ce jour où, tu vois, moi c'est, tu vois, ça revient sur le truc que j'ai, l'exemple que j'ai tout à l'heure. C'est bizarre, ce truc là, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas pensé et ça me remonte là. Tu vois, ça me remonte.
Ouais.
Cette histoire de, tu dis pas bonjour à la dame, tu vois. Voilà. Donc, moi, je suis ce jour-là, c'était pas une dame, c'était un monsieur, je me rappelle l'expérience. Je suis avec mon père dans la rue. Il y a un mec qui arrive. Mon père le connaît. Moi, je sais pas quel âge j'ai. Je suis pas tout jeune, quand même, hein. Je sais pas, j'ai une dizaine d'années, hein. Le mec arrive. Il dit bonjour à mon père. Moi, je le connais pas, le gars. Donc, moi, dans ma tête d'enfant, je le connais pas, ça n'a pas de sens, je dis pas bonjour. Tu vois, parce qu'en fait, si mon père était pas là, le mec, il serait passé à côté de moi, on serait jamais dit bonjour. Tu vois, mais ça a du sens, en fait, dans la tête d'un gamin, ça. T'es dans la rue, tu dis pas bonjour aux gens, puis tu vas chez le docteur, les gens, ils rentrent, ils disent tous bonjour, les cons là. Tu dis, mais attends, les gars, qu'est-ce qui se passe dans vos, tu vois, le problème du sens, mais pour moi, c'est ça, ça n'a pas de sens. Ou on se dit tous bonjour, ou on se dit pas bonjour, mais c'est quoi, il y a la connerie de dire, là, on se dit bonjour, là, on se dit pas bonjour. Donc, le mec arrive, moi, je lui dis pas bonjour. Et mon père, il fait, bah, tu pourrais dire bonjour, toi. Et tu sais, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Tu vois? Ah, je lui ai pas dit, mais. Et donc, du coup, là, mon élan de vie de gamin a été tapé dans un truc, tu vois. Là, mon père, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il m'a mis la honte, en fait. Il m'a plus aimé. Tu vois, et moi, ce que je donnais dans mon mouvement, c'était un mouvement d'amour. L'élan de vie qu'on a, c'est un élan d'amour, en fait. Et quand cet élan-là, il est tapé dans un truc, t'es obligé de fabriquer un personnage pour pouvoir continuer à avoir de l'amour. Et là, j'ai été obligé de fabriquer le garçon poli.
Ouais.
Et après, je suis devenu, oh, il est poli, oh, il est poli. D'ailleurs, depuis le début, c'était, ah, il est gentil, on l'entend pas, bon, il est gentil et tout. Donc ça, je me dis, tu vois, c'est cool, ça. Dis donc, quand on m'entend pas, je suis gentil, tout le monde m'aime. Ok, bah, je vais fermer ma gueule. Ok, je ferme ma gueule maintenant. Tu vois? Et après, t'apprends à fermer ta gueule. Et ton personnage, c'est fermer sa gueule. Parce que quand t'ouvres ta gueule, en réalité, tu dis pas les bons trucs. Donc, t'es pas quelqu'un de bien. Donc, tu vois? Et l'élan initial, la danse initiale, tout d'un coup, elle est, bam! Et tu commences à envoyer des personnages. Et t'oublies ce que t'es. Alors que ce que t'es, c'était juste au départ une mauvaise interprétation entre ton père et toi, ou ta mère, ou tes parents, ou tes responsables, ou ton directeur d'école, ou les autorités qui sont là, en fait, elles fracassent. Hein.
Ouais.
Elles fracassent pas parce qu'elles veulent faire du mal. Elles veulent aussi donner de l'amour, mais maladroitement. Et tout ça, c'est de l'information qui est mal interprétée, mal, tu vois, c'est pas, et puis on n'a pas de temps, d'espace où on aurait pu en parler.
Oui, c'est ça.
Et là, on retrouve le fameux temps qu'on retrouve dans l'hormèse, qui est ce temps d'adaptation, de repos où les choses peuvent retomber et du coup se transformer. On appelle aussi ça le temps somato-sensoriel en ostéo, par exemple, où quand il y a une manipulation, un truc a été fait, il y a besoin d'un temps derrière, de digestion, de machin. Mais quand on n'a pas ce truc-là, bah, tu vois, juste sur une séquence comme ça d'un enfant, on revient pas sur le truc, tu prends le clash dans ta gueule, tu te dis, oh, je vais plus être aimé, je vais être tout seul au monde, je vais être abandonné, je crée un truc, et hop, on est reparti sur part. Une.
Mais c'est clair.
Et ça dure toute une vie, putain.
C'est exactement ce que j'allais dire, putain. C'est ça. C'est qu'après, de ce petit moment-là, ça dure 20 ans, 30 ans, et en fait, t'accumules, ces choses-là, t'accumules ces claques sans jamais avoir le temps de respirer et de revenir. Attends, mais en fait, moi, je fais pas ça par amour, je suis en train de chercher une validation, je suis en train de vouloir appartenir à un groupe, et en fait, tu prends pas le temps, tu vois. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi sur la compète, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu passes ton temps et tu te rends pas compte que t'es dans ce tsunami et que presque, en fait, idéalement, ce serait, ok, si tu fais ça pendant 30 ans, il te faut au moins 2 ans où t'es tout seul et tu vois personne et tu laisses retomber tout ça. Écris ce qui se passe où, tu vois, on a plus du tout ce temps-là. Et même si, là, je te rejoins dans l'idée que créer ces espaces, maintenant, ça, tu vois, ça reste un peu tendance et donc on pourrait se réjouir aussi du fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui créent un peu des espaces, que ce soit les cérémonies, que ce soit les breathwork, les choses comme ça. Tu dis, ok, c'est cool. Mais après, au regard d'une vie de 30, 40, 50 ans, offrir même 3 heures de respiration, est-ce que c'est réellement suffisant pour que le mec digère 40 ans de comme tu dis, de tous ces événements où il a dû apprendre à être poli, il a dû faire ça, il a dû baisser la tête, il a dû serrer la main, il a dû s'habiller comme ça, etc., etc. Tu vois? Il y a une sorte de, le temps qu'on s'octroie aujourd'hui, je pense qu'il est totalement insuffisant par rapport à tout ce qu'on a déjà passé, tu vois. Donc après, y a-t-il une solution? J'en sais rien. C'est déjà de toute façon des bonnes étapes, hein. C'est mieux que rien, comme on dit. Mais y a encore une fois, il y a une dissymétrie totale, tu vois, entre toutes ces claques-là, comme tu les appelles, tous ces conditionnements successifs, tous ces impératifs. Tu dois faire, tu dois être comme ça.
Les injonctions, hein. Ouais.
Les injonctions, exactement. Par rapport au temps qu'on s'accorde aujourd'hui. Et comme tu disais, des fois, ça peut être 5 minutes le matin, tu fais une médite, tu fais une petite routine de mobilité, tu regardes le soleil, t'écris, peu importe, tu vois, où tu restes avec toi-même, ne serait-ce qu'une heure dans la journée, ce serait déjà un stimulus qui pourrait t'orienter vers essayer d'en apprendre plus, tu vois, sur réellement qui t'es.
Ou pas. Ouais. Ou pas. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de morfler grave, de toucher le fond de la cuvette pour pouvoir capter quelque chose. Et il y a des gens qui capteront jamais rien. Mais de quelle manière je pourrais avoir raison de ça? Tu vois? Pourquoi finalement bosser comme un malade tout le temps, accumuler des thunes, briller, avoir ces grosses bagnoles, défoncer tout le monde, tu vois? Pourquoi ce serait pas OK? Tu vois? On peut aller jusque là, hein. On peut se dire, mais après tout, pour lui, si ça vibre bien, s'il se sent bien, si c'est OK, bah OK, ça marche. Bah, il va avoir des copains. Hein. Il va avoir des copains. Il y aura des mecs comme lui. Hein. Donc pourquoi lui il a tort? On retrouve le tu vois le truc des ah non mais eux ils ont tort parce que
bien sûr
ils vivent leur expérience de vie, elle est comme ça. S'ils doivent vivre ce truc là, encore une fois ça nous dépasse, c'est qu'ils doivent vivre ce truc là. Voilà, terminé. Et on a beau ne pas être d'accord avec ça, bah c'est une énergie qui
exactement
c'est une autre énergie quoi. Voilà, alors après ce qui est intéressant avec ces énergies là, moi ce qui m'intéresse dans ces énergies là, c'est de quelle manière ça parle de moi. Tu vois, s'ils sont là, s'ils m'interpellent, si dans mon système ça résonne, s'ils m'énervent.
Si tu captes l'information, bah oui.
Tiens, ça m'en dit sur moi. Parce que si j'en avais rien à foutre, ça serait une non-question. Ce serait un non-problème. Ouais. Tu vois, je dis aux étudiants, des fois, on est dans la salle, on se dit, s'il y a un mec parmi vous qui est passionné des fourmis rouges, je peux vous dire que dans la pièce, il y a une fourmi rouge, lui, il l'aura capté depuis dès qu'on est rentré.
Mmh.
D'accord ? Et nous, on n'aura rien calé, en fait. Donc, en fait, ce qu'on vibre, on l'attire, on le crée et on le voit. Donc, les mecs qui sont comme ça, tu vois, moi, il y a une chanson de Noir Désir qui me sonne toujours. Dès que je vois un mec passer comme ça, tout beau, costard, grosse bagnole, défoncer tout le monde, à pousser un peu les gens comme un goré, tu vois, comme ça, on voit. Ça me fait penser, tu vois, je suis un mannequin glacé avec un teint de soleil, ravalé, homme pressé, mes conneries proférées sans le destin du monde. Je n'ai pas le temps de vivre, ma carrière est en jeu, je suis l'homme médiatique. Moi, je vais vite, très vite. Je suis une comète humaine, universelle. Tu vois, et voilà, ce texte-là, à chaque fois, me résonne quand je vois ces énergies-là passer et à quel point je déteste ça. Je déteste ça. Et je peux pas faire le déni que je déteste ça. Tu vois, on pourrait jouer aussi à dire non, mais moi je suis cool. Tu sais, les trucs bienveillants là qui tournent un peu partout.
Ouais, bah ouais, c'est clair.
Non, mais il faut être bienveillant, il faut être cool, il faut être machin. Ok, mais dans mon système qui est en train de se passer, lui, il m'énerve. Donc, où je joue la bienveillance, le gars bien, pour pouvoir encore une fois répondre à ces nouveaux curés là que sont l'espace du développement personnel.
Ouais.
Je suis celui qui est capable de recevoir de machin. Mais en réalité, c'est du déni de ce que je vibre. Je vibre, lui, il m'énerve, j'ai envie de lui foutre une grosse tarte dans sa gueule. Tu vois le truc? Voilà. Maintenant, je reprends la main, je respire, et je me dis, ok, est-ce que ça m'est utile? Tu sais, comme avec le mec avec la barrière. Est-ce que ça m'est utile? Non, ça m'est pas utile, ça me fait pas grandir. Hein. Par contre, ça m'en raconte sur moi. Ça m'en raconte sur peut-être, j'ai envie de me la claquer. Peut-être que ça serait moche, ça serait ne pas être quelqu'un de bien de se la claquer. Ouais. Peut-être que tiens, ça rentre en résonance avec le fait que je suis discret depuis que je suis tout petit et en fait j'ai ravalé, j'ai tellement ravalé le fait que en réalité j'ai de la puissance sous le pied, mais il faut pas la déballer. Que ce mec-là qui déballe tout, en fait, il m'énerve parce qu'il y a une partie de moi qui a été tellement écrasée que du coup, tu vois, ce truc-là, il me renvoie.
Ouais.
Donc sinon, je l'aurais pas vu. Tu vois, et ça, c'est fou de se dire, mais tout ce qui rentre dans mon système parle de qu'une chose, ça parle de moi. D'accord? Et ça parle pas des gens. Donc, moi, j'ai une ado à la maison, j'en ai deux même. Leur fonctionnement, c'est toujours, ouais, les autres, alors elle, t'as vu comment elle est habillée, non, bah, alors pour qui elle se prend, bah, alors elle. Tu vois, et je leur dis, mais ça parle de vous, en fait. En fait, ça sert à rien, elles sont jeunes et elles captent pas.
Encore
et
puis,
je suis trop perché, je crois, et. Mais en fait, c'est dingue à quel point les choses ne font que parler de nous et de ce qu'on aimait. Ce que tu aimais, ton énergie que tu aimais, en fait, elle va taper les choses et puis elles vont te revenir. Tu vois, comme une onde sur un lac, par exemple. Hop, l'onde, elle est, ça tape le bord, comme quand il y a une péniche qui passe sur la rivière. Ça tape le bord et elle revient, l'onde. Ben, ouais. Ça te revient, en fait. Tout ce qui te revient, c'est juste parce que tu l'as émis. Mais t'en es pas conscient. Donc quand tu rencontres un autre, moi quand je rencontre Slim, le truc que je vois, c'est le contrôlant, c'est le mec qui a envie de tout détartrer, c'est quelqu'un qui combat, etc., etc. Et je vois en dessous aussi sa sensibilité, tu vois. Et en fait, il y a plein d'autres trucs chez toi, mais je les vois pas parce que c'est pas dans mon système. Par contre, ce que j'ai vu, c'est dans mon système. Donc, du coup, l'autre n'est plus un ennemi, l'autre n'est plus un truc à abattre. Parce qu'en réalité, quand tu essaies d'abattre l'autre, tu cherches à t'abattre, tu cherches à abattre des parties de toi que t'as enfoncé dans le truc. Donc voilà. Et le mouvement, il est intéressant à ce moment-là. Je trouve, c'est là que ça rejoint le mouvement. C'est que quand tu laisses le mouvement se faire sans répondre à des codes, hein, la gym a des codes, la boxe a des codes. Moi, je suis de la boxe française, donc c'est très codé, tu vois. Voilà. Si tu sors des codes et que tu laisses de la liberté à ton corps et le mouvement et t'essaies de le laisser sentir, et là, tu rejoins plutôt la danse, et donc, du coup, ça rejoint aussi la danse initiale de nos vies. Et ben, là, va s'exprimer, ce qu'il y a besoin de s'exprimer au travers des fascias. Tu vois, dans les fascias sont bloquées nos énergies d'enfants, nos traumas qui nous serait bon de relâcher pour récupérer de la liberté. Tu vois, si je distribue beaucoup à tout le monde, je donne à tout le monde, je donne et tout. Bah, c'est peut-être que je fais un peu du déni de mon côté radin. Donc du coup, je suis coincé dans mon personnage de celui qui donne. Et du coup, j'ai créé mon identité là-dedans. Je suis celui qui donne. Regardez, tout le monde me reconnaît parce que je suis celui qui donne. Donc je vais pas aller reconnaître mon radin parce que je vais perdre tout le monde et je vais me retrouver tout seul. Donc je reste coincé dans un petit espace que je ne choisis pas. Alors que si j'acceptais mon côté radin, j'ouvre et là je retrouve le choix. Le choix d'être un con si j'ai envie d'être un con, et le choix de donner si j'ai envie de donner. Et quand je donne vraiment avec amour. Alors que quand je suis coincé, je donne parce que je suis coincé en fait. Donc le fait de rebouger, c'est là qu'on fait le lien avec le mouvement, de rebouger, de libérer l'énergie condensée dans les fascias, permet de façon incroyable de relier les sensations, les émotions, les pensées et le comportement. C'est-à-dire qu'en bougeant librement, tu changes ta vision du monde et du coup ce que tu proposes au monde. C'est énorme, hein ?
Ouais.
Et le fascia, je trouve qu'il est assez fort là-dessus parce que c'est un organe où circule pas mal d'énergie. En fait, nos fascias entre nous discutent. Le mien et le tien, c'est comme ça que je capte de l'information sur toi, en fait. C'est avec ce truc-là. Et si je fais de l'espace, plus je fais d'espace dans mon système, plus j'accède à l'autre. Plus je suis celui qui sait, et moins j'accède à l'autre. Parce que je sais, j'ai pas besoin de l'autre. Je sais tout, moi. Du coup, plus tu sais, plus t'es rigide et rétracté. Et moins tu sais, plus tu laisses de la place, et tu récupères le mouvement. Et tu laisses de la place à l'autre. Et du coup, toi aussi, tu vas mieux. L'autre, il va mieux. Il se sent pas jugé, machin. Toi, la combinaison entre le mouvement, la pensée, la physiologie, l'énergie, et tout ça, ça se bam, 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 bam. Voilà. Et donc, il faut absolument aller chez soi, quoi. Arrêtons d'aller chez les autres et de vouloir changer les autres. Hein. On ne modifie pas la matière. Hein. On modifie l'énergie. Hein. Donc, c'est la sienne. Hein.
Magnifique, magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur cette idée, ce rapport? Parce que je pense que pour beaucoup de gens, même s'ils écoutent ce podcast, c'est pas encore si clair que ça, que le corps, la matière, le physique a peut-être aussi un moyen, tu vois, de se libérer et d'accéder à toutes ces couches, l'émotionnel, l'intellectuel, le comportemental. Tu vois, quelqu'un qui se dit, bah non, moi, regarde, je fais mes pompes, mes tractions, c'est bon, tu vois, je me sens bien et donc j'ai fait mon travail, tu vois. Ou bien mon entraînement, c'est juste pour me défouler 30 minutes et après, je vis ma vie. Comment faire ce lien ou comprendre ce que tu viens de nous décrire? Tu vois, cette idée que pour communiquer, pour améliorer la captation de ces informations, pour peut-être aussi accéder à plus d'amour pour moi, pour les autres, en fait, il y a la nécessité de remettre le corps en mouvement et peut-être que ça passe par un travail plus profond. Tu me diras ce que t'en penses que simplement, tu vois, le petit workout, quoi.
Le petit workout, c'est pour répondre à des injonctions, d'accord. Et c'est pas grave.
Ouais.
Attention, c'est cool. Si ça me fait du bien et que j'ai fait 35 ans de muscu, Oh, je veux dire, j'ai fait 35 ans de muscu à me faire chier, à pousser des bouts de ferraille pour créer un super-héros qui serait admiré, ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y avait en dessous, mais il y avait un truc comme ça. Ces moments-là où j'étais, je me rappelle de certaines séquences là, où il faisait 40 degrés dehors. Toi, tu vas à la salle parce que tu peux pas y aller le matin, t'as un truc, le soir, tu peux pas, t'es obligé d'y aller, il est 14 heures, la cage à squat, elle est derrière le carreau, t'es en plein soleil.
Waouh.
Tu crèves. Et t'as 10 fois 10. T'as 10 fois 10 à faire. Parce qu'en fait, il y a un mec qui t'a dit, c'est 10 fois 10. Sauf la partie pour 10 fois 10, le squat à t'arracher. Pendant que les potes, ils sont à la plage ou en train de jouer. Tu vois? Et en fait, là, en fait, l'information, tu l'as. Mais tu veux pas l'entendre.
Mmh.
Donc en fait, l'information, on l'a tous. Mais c'est juste le bruit qu'il y a autour. Le bruit qu'on a. Il faut que si je fais pas ça, je me sens pas bien. Si je fais pas ça, ça va pas. Tu sais, c'est, la course à pied est très investie de ça. Hein. La course à pied, c'est chargé en. Bon, tu sais, c'est un truc de dépense d'énergie. Donc, t'as dû déjà remarquer que les gens qui se mettent à la course à pied de façon, tout d'un coup, ils se trouvent un élan pour la course à pied. Souvent, ça vient au lendemain d'une séparation où ils ont arrêté la clope, où ils ont arrêté les gâteaux. Enfin, où il y a un gros truc qui s'est passé.
Ouais.
Tout d'un coup, ils commencent à courir et puis ils courent et puis ils courent et puis ils courent. Et puis ils en ont besoin, quoi. Vraiment. Et je me dis, bah, c'est cool, en fait, parce que grâce à ça, ils se tiennent. Grâce à ça, ils vont bien, en fait. Ils se tiennent. Mais en arrière-fond, ils savent très bien pourquoi il se passe ça. Parce que d'un point de vue énergétique, t'as une compression d'énergie dans le système. T'as un truc qui est pas reconnu, qui est pas admis, qui est pas entendu. Ça comprime le bordel. Il faut que ça sorte. Hein. Donc, ou ils font du sport, ou ils sont en colère toute la journée. Et ils éclaboussent tout le monde. Donc, ils vont courir parce qu'en fait, ils veulent rester des gens cool. Donc, ils sont cool et en plus, ils sont doublement cool parce qu'ils font du sport.
Ouais.
Je suis cool, t'as vu? Et en plus, moi, je fais du sport et puis tiens, je vais même faire un ultra trail pour pouvoir être un ultraman. Tu vois, et on arrive à un truc après invraisemblable tout au bout où on fait des trucs pour lesquels on n'est pas forcément prévu d'un point de vue physiologique. Après, ça, c'est un avis. On a le droit de pas être d'accord, je m'en fous. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Je suis à l'aise avec le fait que j'ai des croyances et qu'elles sont fausses. Ça détend, hein. Mmh. Ça me permet de dire, les gars, tout le monde se détend, j'ai tort, c'est bon. Mais c'est le truc dans lequel je, voilà, je. Et donc, c'était quoi la question?
C'était justement sur, tu vois, tu rebondissais sur la place du workout, tu vois. Et pour les gens qui peut-être comprennent pas, ou peut-être est-ce qu'il y a un intérêt à admettre ou à comprendre que le mouvement du corps peut être le vecteur, tu vois, d'élévation, de libération, comme tu disais, de communication avec l'autre, de peut-être présence.
T'as remarqué donc,
comme ça encore.
Ouais. T'as remarqué que c'était un chemin. Que t'as mis du temps à arriver là. Mmh. Bah, moi, j'ai fait 35 ans de pousser des bouts de ferraille pour admettre un truc que je savais déjà dès le premier jour où je suis rentré dans la salle. Mais il a fallu passer par l'expérience. Il a fallu larguer de l'énergie et du machin pour admettre à la fin que c'est bon. Et tu sais quand c'est bon, quand le truc revient dans une zone d'équilibre, je trouve. Tu sais, c'est-à-dire que tu ne te pèses plus tous les jours, t'arrêtes de peser ta bouffe, t'arrêtes de voir combien il y a de grammes de protéines par repas, t'arrêtes cet hyper contrôle. En fait, il y a des tu vois, cette semaine, je me suis entraîné deux fois. Il y a prévu quatre fois au programme. Bah, le petit, il a été malade et tout. Et ben, je m'en fous en fait. C'est bon. C'est, je suis toujours là. Je suis toujours sur la piste. Le mouvement, c'est toujours intéressant. La santé, c'est toujours intéressant. Mais on n'est plus dans un excès. Dès qu'on commence à avoir un excès, il y a quand même de quoi avoir un doute.
Ouais.
Et donc, faire des workouts et aller à l'entraînement en traînant la patte, en disant « Oh là là, pff, oh, j'ai pas envie, ça me fait chier et tout, mais il faut que je le fasse. » Là, tu vois que t'es pris dans un truc. T'es coincé dans un truc, en fait, et tu veux pas, il y a quelque chose que tu veux pas entendre. Ça pourrait être une piste. Maintenant, s'il faut 15-20 ans pour arriver là, faut arriver là. De toute façon, c'est rigolo, on a le fantasme de la vie d'arriver à un endroit, tu vois.
Ouais.
Comme si il fallait arriver quelque part où, ah bah ça y est, c'est bon. Le lac, il est plat, il est lisse. On est bien. Bah, tu sais, prends ton le plus gros fantasme que t'as. Tu sais, les gens, tu vois les trucs des fois sur les réseaux. Alors, je prends un truc un peu exagéré, mais le rêve, c'est, je suis à la piscine avec mon verre de spritz, là. Je sais pas comment c'est spritz, c'est là, ça s'appelle le truc à la mode, là. Je prends tout ce qui est à la mode. Donc, la piscine. Un verre d'alcool à la mode, la photo de mes doigts de pied en éventail, je me fais masser par je sais pas quoi, ok, c'est le top du top, ok.
Ouais.
Reste dans le top du top, vas-y, mais tu vas y rester pendant 4-5 ans pour voir. En fait, ce que tu crèves d'envie, c'est d'avoir une merde. Mmh. Il faut que tu aies une merde pour qu'il se passe un truc, pour que ta vie, pour que ça rebouche, qu'il y ait de nouveau du mouvement. Alors en réalité, je me dis, il y a rien à atteindre. C'est juste, bah voilà, on est en mouvement. Alors si on est en mouvement à faire des workouts, bah, on est en mouvement à faire ça.
Ouais,
bah. Ah, si on va faire du yoga et que vraiment le yoga, c'est un truc, c'est infernal ça. Alors là, attention. Dossier.
On a perdu les coureurs. On a perdu les yogis.
Ouais, non, mais en fait, ce qu'on perd, t'as bien compris, c'est on perd les excès.
Bien sûr.
Et être à un endroit où ça vibre pas pour moi. Donc le yoga est à la mode, tout le monde s'engouffre dedans, mais il y en a plein, ça les fait trop chier d'aller au yoga, tu vois. Oui. Mais c'est trop la mode, donc on y va. Donc la mode, c'est cool, il y a une tendance, il y a un truc qui bouge, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est pour moi? C'est pour moi, c'est pas pour moi. C'est là la question à se poser. Si c'est pas pour moi, c'est pas grave. Si je veux faire un sport qui n'existe pas. Hier, il y avait une gamine, une étudiante. Je lui dis, elle avait un t-shirt de foot. Je sais pas pourquoi. Je lui dis, ah, tu fais du foot. Et elle me dit, non, moi je fais. Ouais, elle me sort un truc de l'épée médiévale ou un truc comme ça.
Waouh.
Et je me dis, waouh. Je dis, bah, tu vois, là, je me dis, bah, elle, en fait, voilà. Elle assume qui elle est. Elle est complètement à côté des tendances et tout, mais voilà, elle a trouvé un truc où elle est bien. Oui. Elle a 20 ans en plus et tu vois, elle trouve son kiff là-dedans. Et ben voilà, moi ça me fout la chair de poule d'entendre ça plutôt que de voir tout le monde essayer de faire des muscle up ou des burpees pour les trucs. Tu te dis putain, les gars. Mais chacun sa place, son moment, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Écoutons juste les dissonances. Ça me fait chier.
J'y vais à reculons.
J'y vais à reculons, tout ça. Je rêve de faire ça, mais en fait, je ne le fais pas parce que j'ai entraînement de ça. Tout ça. Là, il y a de la vraie information, je crois. Et tout le monde cherche à aller bien. Et tout le monde cherche à aller bien. Et pour aller bien, on nous a longtemps, il y a eu un moment là où on continue d'ailleurs à nous vendre des objets. Donc il faut avoir bien, tu vois. Et là, on est dans un faire bien, tu vois. Donc tu fais du yoga, c'est bon, tu fais bien, c'est bon. T'as telle bagnole, c'est bon, t'as le bon truc, c'est bien, c'est bon. Donc là, tu vas pouvoir aller bien, tu vois. Et on pourrait pas aborder le être bien, tu vois, au lieu de l'avoir, le faire, juste le être. Et donc, pour être, bah, il faut être. Faut arrêter de faire, arrêter de courir et avoir des moments où juste tu es. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'a prévu la vie. Donc, c'est Laborie qui disait, le but d'un être vivant, c'est d'être. Donc j'ai envie de dire, on est tous arrivés, quoi. C'est bon, on a tous gagné. C'est bon, on a tous gagné. Donc maintenant, j'ai envie de vivre quoi? Parce que de toute façon, je suis. Donc c'est bon, c'est cool. C'est pas la peine d'essayer d'être plus que d'être. On y est. Donc on est tous arrivés. Maintenant, qu'est-ce qui fait que mon expérience, elle va être sympa ou pas? De quoi je vais me débarrasser? Que je pourrais essayer de me débarrasser, sachant que ce dont tu veux te débarrasser, ce qui est ton problème, c'est en même temps ta solution. C'est parce que j'étais introverti, timide et machin, et que je pouvais pas passer à la caisse machin, que je me suis posé des questions sur mon corps, sur comment, pourquoi je perds le contrôle de mon corps à ce point-là,
ouais.
Que j'ai plus du tout la commande, que c'est désagréable, j'ai pas envie de vivre une expérience désagréable. Et là, il est en train de se passer un truc désagréable. C'est donc qu'il y a une tension dans mon système. Donc, il y a une tension entre une croyance et un fantasme. Donc, je crois que je suis insuffisant et j'ai le fantasme d'être un dominant, un
super-héros.
Super-héros, je sais pas quoi. Donc, du coup, ça tend. Et là, du coup, je perds le contrôle de mon système. Je suis plus là où je dois être.
Ouais.
Alors, il faut relâcher un des deux, quoi, ou les deux. Il faut revoir la copie pour vivre quelque chose d'agréable. Donc, on n'est pas en train de chercher quelque chose qui est vrai ou faux. On est en train de vivre quelque chose qui est agréable. Là, j'ai rencontré une fille, on discutait avec une fille sur une formation en hypnose, là, et la fille, elle m'a fait rire. Elle était un peu, voilà, elle était un peu perchée comme ça, tu vois, mais moi, j'adore, de ça. Donc, c'est pas du tout péjoratif chez moi. C'est au contraire, c'est un tel lâcher prise. Et elle dit, oh, j'ai vu un truc sur Internet, il y avait un stage de chamanisme, je sais pas quoi, il y avait des tambours et tout, et puis oh, ça m'appelait, puis de la façon qu'elle le disait, tu sais, elle le vivait, c'était pas ça sonnait tellement juste quand elle le disait, c'était beau, tu sais, elle dit ah, c'était chouette, tu vois, elle disait ah, oh, ça m'appelait, et puis elle me dit ah, oh, puis mon doigt il a appuyé, et donc je me suis inscrite.
J'adore.
Mon doigt, il a appuyé, elle a dit. Elle a pas dit, j'ai, tu vois.
Ouais.
Et là, tu vois que elle est dans l'adaptation. Ça s'est fait tout seul. C'est pas, je veux être machin. C'est ça coule, en fait. Et en même temps que ça coule, c'est en même temps là qu'elle veut aller. Et ces gens-là qui sont en même temps là où ça coule et là où ils veulent aller, bah, putain, ceux-là, ils te changent la vie, quoi. Hein.
C'est clair. Et puis, eux ont une expérience de vie joyeuse et pleine, tu vois. C'est-à-dire, comme tu dis, moi, j'adore ce mot-là, ça appelle. Moi, ça m'a permis, là, en t'écoutant, de aussi faire le point un peu sur les expériences que j'ai eues. Et in fine, moi, elles m'ont toujours appelé. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est très vrai. Et moi, je m'en suis jamais caché sur le podcast ou toute ma vie. C'est-à-dire que moi, les choses qui m'ont animé jusque-là, elle m'anime encore. Il y a beaucoup de choses qui, peut-être d'extérieur, peuvent être, tu vois, jugées, labellisées. Oh, ça c'est pas bon, il en fait trop, il travaille trop, il bosse trop, il est trop compétiteur, etc. Mais moi, toutes ces choses-là, s'il y a bien une chose dont je peux être fier, en tout cas, c'est que elles ont jamais été forcées en moi. Est-ce que la flamme initiale, elle a pas pu être forcée? Ça, je pourrais pas te le dire. Tu vois, j'ai commencé tellement tôt que je m'en rappelle même pas. Tu vois, du sport, de la compète, etc. Mais en tout cas, le reste, ça a toujours été un appel, tu vois, c'est non, pourquoi tu fais ça? Mais je me sens bien, je sens que c'est moi, tu vois. Et de la même manière, cette phase de la vie dans laquelle je m'oriente, où j'essaye de mieux comprendre ça et peut-être d'aller vers cette vulnérabilité, ces zones de peur que j'ai, ça aussi, ça m'appelle. Je n'essaie pas de le forcer, tu vois, je suis pas là à aller, je vais aller au Pérou me faire de l'ayahuasca tout de suite et non. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui ne viennent pas, et comme tu dis, il y a des choses qui viendront jamais. Mais je pense que un point de vocabulaire intéressant pour les gens, c'est les appels. Est-ce qu'il y a des choses qui t'appellent, tu vois, quand tu vas au travail, quand tu penses à ce voyage-là, tu vois, les gens, par exemple, qui vont en vacances et qui font, tu sais, tout le monde fait les mêmes destinations, la même durée, le même hôtel, les mêmes choses comme ça. Moi, ça m'angoisse quand j'entends des histoires comme ça. Je me dis, mais est-ce que c'est toi, c'est ta voix, ou bien c'est le bruit, tu vois, comme tu l'appelles, le bruit extérieur. Tu vois, moi, j'ai souvent des conversations, j'en ai souvent eu avec des gens qui, voilà, il y en a qui sont plus dans mon cercle d'amis, mais qui m'ont toujours dit, en fait, tu vois, pendant 5 ans, les mecs, ils ont les 4 semaines de vacances, ils vont genre à Mykonos, ils vont en Espagne, ils vont dans les trucs classiques, quoi, tendance du moment. Et après, tu discutes un peu avec eux, ils te disent, non, mais tu sais quoi, moi, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie d'aller en sac à dos au Népal. Tu me dis, mec, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas, tu vois. C'est vraiment un appel. Après, il dit, oui, mais non, tu vois, je dois regarder, il faut une assurance voyage, je veux voir le vol. Et puis, tu vois, si j'y vais, ça va prendre une semaine, mais après, j'aurai pas le temps pour le travail et tout. Et c'est là où il y a, encore une fois, ce blocage de cet élan vital, tu vois, ce mur qui arrive. Et moi, ça m'attriste, tu vois, c'est des choses où il y a une incompréhension.
Voilà, dans ce que tu dis, là, t'as l'argumentaire qui arrive. C'est-à-dire que la personne, elle va te trouver des arguments pour valider le fait que elle ne va pas le faire. Et en fait, elle ne va pas le faire parce que au fond, elle a peur. Et donc, pour ne pas ressentir la peur, elle va mettre du mental dessus. Tout ce qui est, dès qu'on commence à mentaliser à fond, ça permet d'étouffer le sensoriel.
Ouais. D'accord.
Voilà. Et inversement, quand t'es beaucoup dans le sensoriel, tu te fais une séance un peu de mouvement libre, prévu à l'avance, etc. Tu te laisses un peu machiner, ton mental, il s'éteint. Boum. Donc tu vois la balance entre je sens arriver un sale truc, Slim il est en train de foutre le doigt dessus, vite, je déballe un argument pour valider le fait que j'ai raison et pas ressentir le truc. Et c'est pareil avec toutes les souffrances du monde. Tu vois, il y a plein de souffrances dans le monde et au lieu de se laisser traverser par ce qu'on ressent et de pleurer quand ça pleure, eh ben on va trouver des explications pour éviter de ressentir. Ah, c'est parce que machin. Ah bah ça s'explique. Donc c'est bon, c'est validé. D'accord. Les mecs qui dorment, j'ai vu ce matin, je sais plus où là. Les mecs qui dorment, qui viennent d'Afrique là et qui dorment le long de la route dans des trucs invraisemblables et tout. Ah bah oui, mais c'est parce que les politiques, du coup venez les gars, j'ai raison, bah oui, lui il est d'accord avec moi, on est plusieurs à être d'accord, ok, c'est réglé, terminé, on passe à autre chose. Et en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon cœur d'humain, il s'est dit non, c'est pas possible, je ressens ce que vit ce bonhomme-là. Putain, il dort 2 heures dans une tente, il est éloigné de son pays, la culture est complètement différente, il est tout seul, il est... Oh, ça me renvoie des trucs de chez moi, ça, putain, tout d'un coup, vite, on trouve un couvercle, terminé, fin de l'histoire. Donc là, j'évite mon problème. Ce qui fait que le problème va revenir. Tu vois, ça va revenir dans mon champ d'écran de plus en plus fort.
Ouais.
Tu vois, ma belle-mère, elle est... Merde, elle est là, en plus, elle est dans la pièce à côté. Elle regarde le petit... Je vais parler doucement. Je suis assez halluciné par le fait qu'elle est toujours sur les animaux. Tu vois, les animaux, c'est un truc de fou. Elle rentre chez moi. Ouais, le chien, il a eu à manger. La caisse du chien, elle a été changée. Les poules, elles ont à manger. Elle nous dit pas bonjour. Elle rentre. Ah, c'est bon. Et je dis bonjour. Tu vois, et ça la transperce. Voilà. Et elle est dans la rue, il y a un chat qui est cachée dans un coin, elle va le voir, en fait. Mmh. Donc, elle a un truc par rapport à ça, une vibration par rapport à ça, et ça ne fait que remuer une émotion qui n'est pas digérée dans son système d'un moment qui lui appartient ou qui appartient à sa lignée, en tout cas, d'un point de vue énergétique, tout son cadre, il est tourné là-dessus. D'accord? Et en fait, chacun de nous, on a la même chose. On a un trauma ou une mémoire transgénérationnelle ou... En tout cas, c'est une mémoire vibratoire qui fait que dans notre champ arrivent toujours les mêmes histoires et les mêmes trucs nous machinent. Tu vois, et ça, je trouve ça incroyable. Et moins on s'en occupe, et plus ça hurle. Moins tu veux entendre ta subtilité, plus elle hurle et plus elle devient grossière et plus elle rentre dans ta matière jusqu'à te faire mourir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont symptomatiser. Symptomatisé,
ouais, on peut.
Qui vont avoir des symptômes, et puis on peut mourir de pas s'être occupé de quelque chose qui avait besoin d'hurler parce que c'est énergétique au départ. On est vraiment que de l'énergie, hein. C'est notre mental, il nous permet d'organiser un peu tout ça pour pas qu'on soit fracassé. Mais en réalité, tout ça, c'est que de l'énergie, quoi. Hein. Donc une fois que tu as reconnu ça, eh ben regarde ce qui t'arrive et ça parle que de toi. Tu veux en savoir sur toi ? Regarde ce qui t'arrive.
Exactement. Est-ce que tu dirais alors que les obsessions sont des révélateurs des choses sur lesquelles on devrait travailler ? Typiquement, tu peux être passionné par quelque chose, mais tu vois, il y a le stade où je suis obsédé, là, ce que tu me décrivais, avec ta belle-mère, on pourrait le qualifier d'une obsession, tu vois, ou bien, sans parler d'elle, prenons un exemple, tu as des gens qui sont obsédés par un truc, tu vois, genre, je suis obsédé par les animaux, je suis obsédé, et même, typiquement, mon exemple aussi, par exemple, admettons, je suis obsédé par l'entraînement ou des choses comme ça. Est-ce que le stade où tu aimes bien faire quelque chose et que t'as une relation un peu plus détendue et cool avec cette chose-là, par rapport au stade où t'es réellement obsédé par cette chose-là, est-ce que c'est nécessairement quelque chose qui devrait t'inquiéter ou te préoccuper plutôt que de te dire non, c'est assez logique, tu vois, ou bien c'est, ça me correspond et c'est des choses qui sont ouais. saines.
Ouais, moi j'ai déjà réfléchi à ça. Sur un exemple, par exemple, à l'université, on a des chercheurs.
Ouais.
Donc les mecs, c'est des pointures dans des trucs de fou.
Exact, tu vois. Exact. Le chercheur, c'est le meilleur exemple. Ouais.
Le mec, il passe sa vie à étudier la patte arrière de la chauve-souris, tu vois. Donc, c'est un truc. Une pointure dans
on
ça.
On a perdu les amoureux des chauves-souris, c'est fini.
et donc, dans sa discipline, c'est le maître. Et ouais. ce qui est intéressant, c'est de se dire que le doute commence à apparaître quand il veut, je pense, rester maître sur la place de son micro-monde, rester dominant dans son micro-monde, qu'il essaye d'être celui qui sait et qui contrôle. Tu vois, là, on retrouve le contrôle et la perte de l'adaptation. Et la perte de l'adaptation, justement, on la retrouve dans le fait que sa vie, elle est réduite à ça. Donc, on pourrait être passionné de la patte arrière de la chauve-souris et en même temps aller jouer au squash, avoir ouais. Des amis, avoir une vie sociale normale, être en santé, voilà, et quand même être passionné d'un truc. Donc l'un n'enlève pas l'autre, mais c'est juste, c'est toujours la même chose. Quand ton énergie, elle est concentrée, focus sur un point, tu vois pas le reste, et à partir de là, tu as une rétraction, tu as une montée en tension. Et t'as moins de disponibilité pour de reste. Et donc t'as un angle de vue qui est tout petit. C'est pas qu'il est faux, c'est juste que t'as une vie réduite.
Mmh.
Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux vivre ? Est-ce que tu veux vivre une vie réduite à un endroit où t'as la main et donc tu vis dans la peur de perdre la main ? En fait, ton obsession, c'est de pas perdre la main. Donc, si tu veux avoir la main, c'est que tu as la face opposée de la pièce qui ouais. a peur de perdre la main. Ou alors, est-ce que tu peux t'étaler, puis si tu perds la main à cet endroit-là, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus, et puis voilà, et du coup, tu te détends. Qu'est-ce que tu veux vivre, en fait ? C'est toujours ouais. la même chose. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, parce que le mec qui est passionné de ça, bah, il va aider des gens.
Exactement.
Il va être utile. Il va être utile à des personnes. Donc, moi, j'avais la même chose sur la muscu. J'avais un petit truc en travers la gorge par rapport à ça. Il y a des mecs qui m'ont fait des progs aux États-Unis, au Canada, etc. Qui m'ont fait des programmes et tout, et qui étaient je les voyais à fond dans leur truc, machin. Et je me disais, mais en fait, ils font que ça. Enfin, leur vie, c'est que ça. C'est nul, ils ont des vies de cons, quoi. Et après, j'en ai rencontré un, en vrai, physiquement. Et d'un point de vue de ce qu'il dégageait, tu vois, il y avait beaucoup de finesse. Il avait une certaine sensibilité, il avait de l'ouverture, il comprenait plein de choses. Il était vraiment à la fois à l'aise dans son espace de muscu, dans lequel il s'est passionné et qui est certainement né d'une blessure. Hein. Mais en même temps, il acceptait le reste des autres parties de lui-même.
Ouais.
Et à partir de là, bah, je trouve que, voilà, on sort de la pathologie à partir du moment où on admet qu'on puisse être tout et son contraire, quoi.
Ouais.
C'est là, je pense que ça se retrouve.
Ça me parle, parce que moi, je pense à, tu vois, au maître d'arts martiaux, maître en mouvement, maître, tu vois, les experts, des experts, du mec ceinture rouge qui a fait que ça. Tu peux le voir assez souvent qu'il y a quelque chose aussi, comme tu disais, il y a une certaine peur de lâcher prise, tu vois. Tu le vois aussi dans la manière dont ils communiquent leur enseignement. Tu vois, ah non, ça c'est mes élèves, c'est à moi, je veux pas le partager, faut pas que tu t'en parles trop, c'est mes petits secrets, etc. Tu vois, les fameux maîtres kung-fu chinois qui, en fait, ils sont morts avec leur savoir. Et qui, mec, t'aurais dû partager ça, en fait. Maintenant, c'est bon, c'est parti, quoi. Et donc tu te dis, ouais, il y a ce côté un peu une pathologie. Après, il y a aussi le côté, des fois, on observe des personnes, comme tu le disais tout à l'heure, à un moment donné de leur vie. Peut-être que le mec, il est à ce moment-là en train d'explorer, de chercher, mais tu sais pas, ça se trouve, dans 15 ans, il aura atteint un peu son niveau de compétence qu'il recherchait, et puis il va passer à autre chose, tu vois. Il y a ça aussi, des fois, tu observes quelqu'un, mais c'est contextuel, tu le vois en plein dedans. Tu vois, le musicien qui prépare son opéra ou sa performance, tu dis, putain, mec, t'es obsédé, il n'y a rien d'autre dans ta tête, oui, mais... Attends, dans 10 ans, je serai plus en train de jouer, je passerai à autre chose. Tu peux pas le savoir.
Donc ne me juge pas sur ce moment-là de vie. Tu es en train de me capturer. C'est un snapshot, tu sais pas moi. C'est juste que là, je fais quelque chose d'intense, donc je me prépare, tu vois, de cette manière-là. Donc il y a aussi ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, tu vois, de l'obsession, tu vois. Est-ce qu'il y a une obsession saine, tu vois? Est-ce que on devrait être habité par ça, ou bien il y a... Tu vois, je me suis posé la question pour les gens qui n'ont pas du tout ça. Tu vois, parce que moi, c'est tout ce que j'ai connu. Et donc, je me dis, comment quelqu'un d'autre, tu vois, qui n'a pas cette expérience, qui vit simplement... il est à l'aise, tu vois, de pas trop en savoir sur un sujet et d'avoir que des petites bribes de plein de sujets, mais il est tout à fait à l'aise, le gars. Et moi, je suis pas encore à cette phase où l'idée de ça, ça me rend pas à l'aise, ça me met mal à l'aise, tu vois, de pas plonger en profondeur dans quelque chose, d'être peut-être qu'en surface, ou bien, peut-être pas en surface, c'est pas péjoratif quand je le dis, tu vois, mais simplement d'en savoir suffisamment, tu vois, pour naviguer dans la journée, quoi, mais pas plus. Et donc, ouais, l'obsession, c'est, ouais, je sais pas. C'est encore un sujet sur lequel je réfléchis.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu parlais du musicien, là, c'est rigolo de se dire que les musiciens passent par une phase d'apprentissage qui est assez rude, où les types passent des heures et des heures à apprendre. Et un jour, ils vont faire du jazz, tu vois.
Yes.
Donc un jour, ils vont plus contrôler. Ils vont retourner à l'adaptation, c'est-à-dire ils vont se laisser traverser, leur corps va se laisser traverser par la musique. Ils vont être à la fois l'instrument, à la fois la musique, à la fois l'ambiance, ils vont être tout en même temps, et à ce moment-là, ils voudraient mieux pas. Moi, j'ai eu l'expérience, je suis nul hein, en machin, mais une petite expérience quand même, ça m'avait marqué de dire, quand c'est parti dans ce flow-là, on peut retrouver dans les mouvements, où tu réfléchis pas et t'es parti dans la... Si à ce moment-là, tu te dis, tiens, où est-ce que je mets mes doigts? Putain, alors là,
c'est fini.
Tu perds tout ton truc.
Tu sors.
Tu vois. Donc, t'es passé par une phase technique, machin, pour pouvoir accéder à du relâchement. Et tu vois, du coup, de nouveau, ce mouvement de vie qui est contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Donc, cette phase d'apprentissage, c'était une contraction où il y avait un peu de... Et puis derrière, ça m'a permis,
ouais,
à nouveau de me relâcher.
D'aller dans cette improvisation, cette adaptation, le côté spontané. Ouais. Peut-on arriver à cet état-là sans la partie technique et l'acquisition, l'utilisation de la volonté, tu vois, de cette discipline, cette rigueur, de se forcer à faire les choses? Parce que si tu te dis, par exemple, quelqu'un qui se dit qui a jamais pris un cours de danse et qui va à une séance ecstatic dance, tu vois, on met la musique et tu te lâches et tu te laisses aller, etc.
Ouais.
Est-ce que là, tu as accès à la même... à une expérience suffisante de ton outil comme étant l'instrument musical, tu vois, ou bien il est préférable, ou bien quelle est la différence entre ça et celui qui va faire une battle, par exemple, où lui, il est dans une improvisation, mais parce qu'il a un énorme bagage technique, et donc il a une capacité créative et expressive, que celui qui juste est lancé comme ça, il fait des choses, mais il va pas se rendre compte peut-être qu'il répète des patterns, ou qu'il évolue que dans un plan, enfin, comment toi tu vois cette chose-là?
Tu vois que les gens qui... Moi, j'y connais rien, hein, mais les gens qui font des battles, ce sont quand même des mouvements qui ont été appris, répétés, à tel point qu'ils redeviennent des mouvements spontanés qui ressortent sans... voilà, comme ça vient, comme ça. Mais quand même, ça a été appris à un moment donné. Le mec, il les crée pas au moment de la battle.
Oui.
Je pense pas que ça arrive.
Non.
Donc c'est une improvisation qui n'est pas tant improvisée que ça. Alors que celui qui n'y connaît rien, il a le champ qui est tellement libre que il peut faire des trucs, voilà. Mais il n'a pas connaissance, lui, de l'amplitude de ce qui est disponible. Donc il va faire avec son bagage de la vie quotidienne. Elle lui fait faire ça, bah il peut se lâcher un peu et puis explorer et puis machiner. Du coup, lui, il est quand même libéré des codes. Donc, les deux peuvent atteindre le même état de flow en n'ayant pas du tout la même expérience avant. Donc, c'est intéressant. Ça me fait penser à la boxe française parce que des fois, moi, j'ai des débutants qui arrivent et moi, j'ai tous les codes. Donc, je rigole, tu vois, c'est bon. Et l'autre, il te sort un truc. Tu vois, c'est pas dans tes codes, tu vois. Et là, du coup, il te touche, tu vois. Et t'es comme un con, tu t'es fait toucher. Ah, parce que l'autre, il t'a sorti un gris-gris qui est pas dans les codes. Tu vois. Donc, c'est rigolo. Ça veut dire que cette liberté-là, elle te donne accès à. Voilà, encore une fois, il n'y a pas un truc qui serait mieux qu'un autre. Voilà, quelqu'un qui fait des, qui a de la danse dans les pattes depuis longtemps, bah, il va créer un truc dans lequel il va pouvoir vivre un état agréable, et l'autre aussi, un état agréable. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on on va s'amuser à comparer? Alors, si on compare, c'est qu'on commence à mettre une grille d'évaluation avec ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, machin, machin. Et là, on se rigidifie à nouveau. On retrouve de la constriction dans le truc. Et des gens qui vont être tendus. Et la tension crée de la peur. Et de nouveau, on se retrouve toujours dans les mêmes.
Même bah oui, bien sûr, bien sûr. Là, tout à l'heure, tu mentionnais quelque chose. J'aimerais que tu rebondisses en cette fin d'épisode là-dessus. Tu mentionnais un peu le monde de l'industrie du dev perso. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Parce qu'on observe aussi avec toi tes recherches et la manière dont tu présentes, tu vois, ton approche, qu'il y a beaucoup cette relation avec l'émotionnel, le chemin de vie, on pourrait l'appeler comme ça, le côté un peu me libérer et avoir une vie agréable. Tu vois, toutes ces thématiques qu'on peut associer maintenant gratuitement au développement personnel. Est-ce que toi, c'est un monde qui t'intéresse ou bien t'en es arrivé un peu à toi, ta manière de penser totalement par l'expérimentation avec le corps, par la connaissance, comme tu disais, scientifique, par l'énergétique. Et donc, quelle serait ton opinion, ton angle de vue sur ce monde-là du dev perso?
Je pense que ce sont des espaces où on trouve des gens blessés. D'accord ? Donc déjà, quand on arrive dans cet espace-là, on pourrait déjà admettre qu'on est blessé. Ça pourrait déjà, tout le monde pourrait déjà se détendre. ensuite, quand c'est arrosé de « il faut » et « on doit », il faut être comme ça, il faut. Moi, ça me rend dingue, ça, en fait. Ça, c'est, je crois que c'est ça qui me rend le plus dingue. Quelle est la différence avec les églises et les abus divers et variés qu'on a eu dans d'autres siècles? Je vois pas la différence, en fait. Tu dois rentrer dans un truc, t'excuser d'être toi-même, et voilà quoi. Donc tout ce circuit de bienveillance et tout ça, moi ça me rend fou quoi. Parce que c'est pas ce qui... Non mais ça c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, parce que c'est tellement faux cul. Mon Dieu. Mais soyons nous-mêmes quoi. Soyons ridicules, soyons moches, trompons-nous. Voilà. Et maintenant quelle relation on a avec ça? C'est ça qui est important. Voilà. Quand je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Au lieu de faire celui qui a raison parce qu'il chante la messe qui est la messe actuelle de ces espaces-là. Après, il y a plein de trucs intéressants dedans. Hein. Je trouve qu'il y a plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'en suis à force de chercher, de creuser, de chercher le pourquoi du pourquoi. Mes potes, ils disent « t'es un grand malade, t'es toujours en train de chercher le noyau de la molécule, du truc, du machin ». Et c'est vrai que voilà, je cherche toujours. Et aujourd'hui, moi je viens au début de la préparation physique. Donc ce qui m'intéressait, c'était la performance. J'ai fait un DU de prépa physique avec Gilles Cometti. Voilà, je suis rentré là-dedans, la perf, le truc, machin, machin. Et puis après, tu descends au niveau. Ah bah merde, pour être performant, il faut être en santé. Ah bah ouais, mais pour être en santé, il faut équilibrer les émotions, les pensées, les machins. Puis tu descends et puis à un moment donné, tu te retrouves à l'énergie. T'es obligé d'être là. Alors même si c'est difficile à en parler, à comprendre vraiment de quoi ça retourne, on aimait des trucs, on aimait quelque chose avec notre corps. Et je crois que c'est à cet endroit-là que ça se passe, et on retourne à l'idée de la sensorialité. Voilà. Et pour moi, c'est là, pour l'instant, l'origine du truc. Et un bébé, il se développe comme ça. C'est à partir du moment où il sent qui il est, qu'il va pouvoir se construire. C'est à partir du moment où on sent notre fessier qu'on peut le contrôler et qu'on peut le développer. C'est toujours à partir du moment où on perçoit qu'on peut agir. Donc, au lieu de dire « moi je suis bienveillant, alors qu'à l'intérieur c'est en train de dire « vous me faites tout chier, je suis très énervé », bah, en fait, on pourrait commencer par percevoir que ah, je suis en train de ressentir que vous me faites toucher, je suis très énervé. Ok, et à partir de là, on peut aller s'asseoir dedans, s'effondrer dedans, se laisser tomber là où on est, et puis admettre, et on retombe sur la vulnérabilité. Et puis, bah, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Bah, c'est ni bien ni bien ni mal. C'est ça émerge. Enfin, un lion, il bouffe une gazelle. C'est ni bien ni mal. Pourtant, dans notre système, on sent bien que c'est mal. Tu vois, on est biaisé à mort en fait tout le temps. Donc, faire le tri de ce qui émerge, voir ce que j'ai collé dessus. Je pense que c'est là que pourrait être le truc. Et c'est pas toujours agréable, hein, parce que on est très très moche. Voilà, on est très très beau, mais on est très très moche. On est les deux.
Amen.
On est les deux. Il y en a marre. Il y a besoin de la dualité pour savoir qui on est. J'ai besoin de savoir ce que c'est un grand pour savoir que je suis petit. J'ai besoin de savoir que lui il a des cheveux et que j'en ai pas, et que ça me permet de me placer, tu vois. Mais à un moment donné, tout peut se rejoindre en se disant il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est donc t'as la dualité qui permet de savoir où est-ce que j'en suis, et après on peut revenir à de l'unité en disant tout ça peut aller ensemble. Donc ma singularité, c'est vraiment un truc à aller chercher. Si chacun va chercher sa singularité en admettant l'universalité, on est traversé par des trucs universels. On est traversé par quelque chose de singulier lié à notre histoire et à notre machin. Et puis, on est plongé dans un contexte. Donc, tout ça, ça fait plein d'informations qui rentrent. Il y a des vieilles mémoires qui sont là. Il y a des lignes de développement des espèces des machins. Tout le monde respire. Tout le monde a peur. Tout le monde, voilà, on a des trucs en commun. On a une histoire. De maintenant, de la lignée, de machin, avec des traces de mémoire dedans. Voilà, une fois que j'ai tout ça, j'admets qu'il y ait tout ça. Et quand je suis plongé dans le milieu avec les autres, ou dans la nature, ou dans des milieux particuliers, etc., qu'est-ce que ça me fait ressentir, tout ça? Moi, quand je suis dans un supermarché, mais j'ai la tête qui tourne, en fait. Je suis bien, tu vois. Enfin, je suis bien. Je serais mis ailleurs, mais ça va. Mais je vois que ma tête, elle... Je suis comme ça, tu vois.
Ouais.
Voilà. Une fois que tu l'as perçu et que tu te dis pas, c'est anormal, je suis quelqu'un de bizarre, oh, c'est chelou, j'ai la tête qui tourne, qu'est-ce que c'est? Vite, donnez-moi un mot pour mettre dessus, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ah, ça rentre comme ça chez moi. Ok, bon, je le sais, c'est bon, on se détend, c'est bon. Mon ado, là, elle est tout le temps en train d'aller chercher des mots, tu vois, pour savoir, tu vois. Alors, on retrouve les hypersensibles, là, après l'autre truc, et puis une autre étiquette, un autre machin. Ah, ça rassure, tu sais, c'est comme le mec qui a mal partout. Ah, oh, j'ai mal partout, j'ai pas ce que j'ai, ça m'angoisse, je suis stressé. Vous avez un cancer. Oh, c'est cool, je savais pas ce que. Maintenant, ça va. Ah non, mais merci, monsieur.
Ouais.
Pour le délire. Tu vois, une fois que t'as mis une étiquette, t'es rassuré. Mais juste si on se laissait. C'est comme ça, puis.
Ça se laisse.
C'est bon. C'est pas si sérieux, hein. C'est bon, hein.
Amen.
C'est pas si sérieux, j'ai envie de dire. Tout ça n'est pas si sérieux. De toute façon, on a des traumas, on aura des traumas. C'est ça qui nous fait bouger. Donc, bougeons. Menons notre bateau vers ce qui nous intéresse, sachant que la balise qu'on a mise, c'est nous qui l'avons mise, tout seul. Voilà. Donc, si moi, ma balise, c'est d'aller faire les vacances, comme tu dis, je sais pas où, à Saint-Tropez ou je sais pas quoi. C'est ma balise, c'est mon point de réussite. La balise, c'est toi qui l'as mis, hein. Donc, tu vois, c'est pas la peine de chialer. Si elle te plaît pas, tu la mets ailleurs. Tu prends la balise, tu la mets ailleurs. En fait, tu peux tout faire.
Ouais.
Tu peux tout faire. Les balises, c'est toi qui les mets. Donc, les interdits, c'est toi qui les mets. Les il faut, on doit, c'est toi qui les mets. Donc, en fait, t'es bien en train de créer ton monde. T'es bien tout seul en train de percevoir un monde, de créer ton monde, de créer ta vie.
Amen. Amen. Eh bien, écoute, une magnifique conclusion, mon avis, je te remercie. Et comme tu le sais, je t'amène dans la dernière phase du podcast pour les 4 petites questions en rapid fire qui vont permettre aux personnes de récupérer quelques petits outils pratiques. Est-ce que tu es prêt?
Ouais.
Eh bien, c'est parti. Première question, si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi?
Moi, j'en ai un milliard, évidemment. J'en ai un milliard, mais j'aime bien les trucs simples et qui parlent au cœur. J'aime bien La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Voilà, donc c'est simple, c'est clair, c'est toujours d'actualité, ça le sera toujours. Et on revient à l'écoute de ce qui est, au retour du si. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Rabhi, de le trouver sur mon chemin. Et c'est quand même particulier de tomber sur des gens. Attends, j'ai une coupure. Tu m'entends? C'est bon, j'ai eu un truc qui
ouais, je sais pas. Je t'entends, ouais.
Donc, oui, c'est des gens qui ont une énergie incroyable dans leur simplicité. Et donc, j'ai pu me retrouver chez lui avec d'autres gens, et je me rappellerai toujours, il y avait un grand cercle comme ça de gens, et on était sous des arbres fruitiers, il y avait des chiens qui se baladaient, et il y avait ce petit bonhomme de 30 kilos, 40 kilos, là, qui parlait calmement, etc., et qui diffusait un truc incroyable. Dans ce moment, le temps s'est arrêté, tu vois, c'était fou, quoi. Et ça correspond vraiment à son livre.
Magnifique. Je te remercie. Deuxième question. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité après ton départ physique, quel serait ce message? Ça peut être une citation, un mot, des paroles qu'on pourrait lire avant que tu ne quittes cette belle planète.
J'aime bien l'idée de tout ça n'est pas si sérieux. Je dirais tout ça n'est pas si sérieux. Ouais. Émerveillez-vous et puis le job, il sera fait, quoi.
Magnifique, magnifique. Troisième question. Ta routine matinale parfaite dans un monde idéal.
Je dirais peu importe la routine, mais de partir de ce qui est là. Voilà. Comment je suis ce matin. Moi, je me lève les matins et j'ai trouvé dans mon organisation cette façon de faire. Je promène le chien. Je fais quelques respirations en promenant le chien. Et puis après, je m'assois dans un endroit un peu naturel. Et je regarde comment c'est dedans. Voilà. Je passe juste un moment à regarder comment c'est. Alors, ça dure ce que ça dure. Ça fait ce que ça fait. Ça apparaît ce que ça apparaît. Et donc, voilà. Ça me permet de savoir ce qui est là. Et de recontacter tout de suite l'humanité. Ça peut être énervé, ça peut être calme, ça peut être inquiet, ça peut être... Il y a tellement d'influences, hein. Ce que j'ai mangé la veille, comment j'ai dormi, comment ça se passe dans la famille, au boulot, une remontée de trauma, un événement, un truc n'importe quoi, fait que on n'est pas le même. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas pareil que ce qu'on était hier et ce qu'on sera demain. On n'est pas le même. On voudrait de la rigidité, on voudrait être toujours le même. Donc les routines qui sont toujours les mêmes, figées comme ça, moi, ça m'inquiète un peu parce qu'on n'est pas le même. Donc déjà là, forcément, il y a quelque chose. On pourrait très bien avoir des routines, mais dedans, y glisser du... Voilà, je pourrais très bien avoir une routine de mouvement, c'est toujours les mêmes mouvements, mais à l'intérieur de ces mouvements, avoir un petit peu de... Tu vois, de lâcher, quoi. Et puis ça pourrait partir dans autre chose. Ça pourrait être aussi une autre chose, ouais. Pour savoir comment c'est chez moi maintenant.
Voilà. Magnifique. Quatrième question, qui n'en est pas vraiment une, pour celles et ceux qui ont apprécié tout ce qu'on a dit aujourd'hui et qui voudraient te contacter pour te remercier, pour travailler avec toi, pour savoir ce que tu fais et où te rejoindre. Quel serait le meilleur moyen de te contacter? Et moi, je rajouterai ça sur la page du site qui te sera dédiée.
Écoute, je suis un peu nul du réseau et tout ça, donc je vais essayer de progresser à cet endroit-là, comme il y a des choses importantes pour moi, la famille, le mouvement, la vivre, tout ça, pour moi c'est important, donc ça me prend du temps là-dessus, donc ça va au rythme où ça va. Donc ouais. Ça pourrait être meilleur, mais peu importe. Par contre, j'ai fait un site, voilà, donc systemicmovement.com, et du coup là, voilà, je vais essayer de faire vivre un peu plus ces trucs-là. Il y a une newsletter où j'essaie un peu de donner des trucs et puis je vais essayer de réapparaître sur les réseaux. Donc, j'ai toujours Systemic Movement sur Insta ou sur Facebook aussi. Voilà.
Bah écoute, c'est déjà deux bons endroits, trois bons endroits pour aller trouver des informations. Et puis moi, je serai aussi un bon vecteur de passage vers ton travail que je mettrai sur la communauté, etc. Donc n'hésite pas à rejoindre ce petit groupe-là. Oui. Bon, David, est-ce que tu as des dernières paroles pour nos auditeurs et auditrices et visionneurs et visionneurs, tout simplement, pour conclure ce bel enregistrement?
Bah écoutez, j'ai envie de dire, vous avez eu la démonstration de quelqu'un de très renfermé, de très solitaire. Voilà, qui s'est retrouvé à un endroit où il est pas forcément à l'aise, mais juste en se laissant traverser par ce qui est là et ce qui m'anime, ben vous avez eu forcément l'impression que c'était fluide, peut-être pas clair, mais en tout cas fluide et que ça sortait du cœur. Et donc je trouve que c'est une démonstration assez claire de, même s'il y a des restes traumatiques, même s'il y a des souffrances, même s'il y a eu des, mais en fait on arrive à être libre. Une fois qu'on a reconnu qui on était, je crois. Voilà. Donc, merci pour m'avoir amené à cet endroit et ça m'a permis de faire cette démonstration sans vouloir la faire ou en même temps. Ça émerge au moment où je te le dis.
Voilà. C'est magnifique. Je te remercie, David, de t'être prêté au jeu. Et je remercie toutes celles et ceux qui nous auront suivis jusque-là. Et je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain, 9h du matin, heure française, pour les prochains épisodes. Ciao, ciao, les movers.
Salut.
Ouh oui les movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude, pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref, tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs, et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets, parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast, c'est réellement le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé. Vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Rejoignez-nous, c'est gratuit. On peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble. Encore une fois, un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance, gratitude et bienveillance, les movers. Ciao, ciao.